Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Mimi Hegel et vous écoutez House of the Dragon, le podcast dans lequel Tequila Tex et moi, on débriefe chaque épisode de la série qui nous ramène à Westeros. Ceci est un replay de live Twitch, ce qui peut expliquer son aspect un petit peu chaotique. Retrouvez-nous en direct chaque mardi à 21h sur twitch.tv/MYMYHGL. Et pour info, chaque lundi sur mon Patreon, je publie le récap rigolo de l'épisode avec plein de blagues débiles dedans. Donc si vous aimez le snip snip, rendez-vous sur patreon.com/MYMYHGL. Et bonne écoute! Bonsoir Lucie, c'est ma copine Lucie, à qui je dois beaucoup.
Oh bonsoir Lucifer Midnightbringer, tu es dans le chat ?
Oh là là, je suis tombée dans les lore Tequila Tex, mais on en parlera plus tard, car d'abord on va se dire bonjour.
J'entrevois The Kid Gold, bonsoir The Kid Gold.
Oui, dis bonjour, dis bonsoir à tes amis, à tes contacts,
j'entrevois des gens.
À tes seigneurs liges, hein, finalement, comme on dit. Bonjour Marty, bonjour Ed Queenie, bonjour Birdseye, bonjour The North Remembers, j'aime beaucoup. Salut le rôdeur, évidemment. Bonjour les habitués et les nouveaux et les nouvelles.
Il est toujours là. Le
toujours fidèle au poste. Bonjour French Fry et welcome. Si c'est votre première fois, eh bien vous arrivez à la fin d'un chapitre. Est-ce que c'est notre dernier live ensemble? Probablement pas, j'espère pas.
Mais non.
Est-ce que c'est la dernière fois qu'on va parler trucs de nerd sur cette chaîne? Non plus. Mais on va quand même finir cette saison 1 de House of the Dragon ensemble avec Tequila Tex.
Au moins jusqu'au podcast de Hate Watching de Lupin.
Oui.
Qu'on prévoit.
Et ou de Rings of Power qui risque d'arriver peut-être pour Noël si vous êtes sage.
T'as pas eu le temps de regarder encore ?
Non, je l'ai pas eu et en même temps, est-ce que je l'ai pris ? Peu, mais je vais le faire car comme ça on pourra faire un podcast de Hate Watch ou peut-être de débat. Imagine, j'aime bien et je kiffe trop. Comme ça, on va se taper dessus. Mais ce n'est pas au programme aujourd'hui.
Ça remettrait plein de choses en cause dans ma vie. La vie est-elle réelle?
La vie ce serait la fin. Ce serait là. Mais est-ce que je peux faire confiance à Mimi pour parler de trucs de nerd?
Non,
alors
mais bien sûr que oui.
Mais
ça, les goûts, ça ne s'explique pas.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai que.
Après, on a quand même globalement des goûts similaires.
Absolument.
Donc, je pense qu'on aura une
On a un goût tous les deux pour les choses bien écrites et les choses bien ficelées.
Oui. Et les choses qui se tiennent un peu logiquement, quoi.
Ouais. Et je pense que Rings of Power.
Il y a Mintara qui dit t'es qui j'ai commencé au Midb. Je ne sais pas ce que c'est. Only Murder in the Building. D'accord.
Ah,
j'ai compris. Et oui, une reco t'es qui la texte.
Only Murders in the Building. Un bon chocolat chaud dans un
oui,
mug.
C'est pas mal pour l'automne. Moi, j'ai pas trop aimé, mais c'est bien pour l'automne.
Dans un mug
en vrai.
D'université américaine, en mangeant un bon pastrami, en regardant les petites lumières dans les buildings. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est mieux si vous habitez à New York et qu'il neige dehors ou qu'il pleut sur les feuilles automnales. Mais même
et que
sans
vous aimez
ça,
Broadway sympa. Et que vous aimez,
les comédies musicales.
SNL.
Un peu.
Que vous aimez regarder que vous coupez pas le générique de SNL à chaque fois que vous aimez un bon taxi dans une rue sombre qui éclabousse un passant avec un jazzman dans le coin d'une rue et un détective qui arrive et qui dit poupée, tu vois
ça, ouais c'est... après bon c'est quand même un cucul à praloche quoi, c'est pas
génial,
un truc noir quoi,
c'est
mais
trop bien,
c'est un délire, regardez, faites-vous votre propre opinion.
C'est
avant
un,
tout
un
attends.
Petit chocolat avec
attends,
des chamallows dedans,
est-ce
que tu mets des chamallows dans ton chocolat?
Non.
Bah c'est pour ça que t'aimes
sucre.
Pas. C'est pour
bah
ça
ouais.
que t'aimes pas.
C'est trop
Only
le sucre pour moi,
in the building.
Moi j'aime le chocolat, le cacao noir au piment. Tu vois, chocolat chaud de personnes un peu qui n'aiment pas la joie finalement. Mais j'aime plus le piment que le sucre. Voilà, désolé. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans ma team quelque part sur le chat. J'ai des choses à vous dire avant qu'on se lance. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé du coup au podcast intermédiaire qui est sorti ce mercredi où, avec Nodius et Doudou, ma petite sœur que j'aime fort, on a répondu à toutes vos questions sur le final. Et c'était un exercice qui était fun pour moi, mais je sais que ça change toujours un peu la formule. Et vous avez été hyper cool avec tous les changements de formule qu'on a pu avoir, que ce soit quand Fabrice Laurent a remplacé Teki ou quand Doudou et Nodius se sont pointés. Donc c'était trop cool pour nous et merci de l'accueil que vous avez réservé. Normalement, on a fait à peu près le tour de vos interrogations. Si vous en avez d'autres, lâchez-les dans le chat. Peut-être on les verra, peut-être pas. On va essayer d'y répondre, mais on a fait un grand tour. Deuxième chose que j'ai à vous dire, qu'est-ce qui va se passer pendant cet épisode un peu spécial du débrief de House of the Dragon, c'est qu'il y aura toute une première partie où avec Teki, bah, on va parler de ce dernier épisode puisqu'on s'en est pas parlé ensemble très peu déjà et puis qu'on en a pas parlé avec vous. Et ça, ce sera comme d'hab, on va rien vous spoiler de la suite, ce sera juste genre notre avis sur tout ce qu'on vient de voir. Et après, il y aura une grosse alerte spoiler. On va faire une deuxième partie où on va parler de la suite parce qu'on sait ce qui se passe dans les livres et de qu'est-ce qu'on a hâte de voir, comment on pense que tel moment va être adapté et tout. Donc là, vous pourrez pas vous plaindre, ce sera full spoiler. Si vous en fichez de savoir ou si vous avez lu les livres, restez avec nous, vous êtes bienvenus. Mais restez, donc il y a toute une première partie où on va rien vous révéler de ce qui vous attend dans la saison 2, 3, 4 puisqu'on part a priori sur au moins 4 saisons de House of the Dragon.
Très bonne structure narrative, Mimi Harar Martin.
Merci. Et écoute, moi, je sors mes contenus en temps et en heure, quand je l'ai promis. Récemment, George Harar Martin, là, il y a quelques jours, a dit qu'il estime en être aux trois quarts de Winds of Winter, le sixième tome de la saga A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, que nous attendons depuis un Hellseed 10-12 ans, je pense, maintenant.
Moi, je pensais qu'il avait lâché l'affaire.
Ben non, il en parle régulièrement. Et vraiment, je pense qu'il y a un moment où les gens lui en voudraient peut-être moins s'il disait j'y arrive pas, ça sortira jamais, plutôt que d'être régulièrement. Mais je pense qu'il taffe sincèrement dessus. Juste, c'est long, il s'est coincé tout seul dans des myriades de personnages compliqués. Et alors, on en parlera sûrement pendant ce live, mais je pense qu'il y a aussi un équilibre entre l'aspect magique et l'aspect pas magique de cette saga-là qui est de plus en plus compliqué à trouver. Je me suis replongée un peu dans le lore Game of Thrones à cause de House of the Dragon et de Tequila Tex ici présent. Et je me suis rendu compte à quel point il y a des trucs hyper ésotériques qui sont assez présents en fait dans Game of Thrones. Et je me dis, ok, il va falloir que ça serve à quelque chose. Et pour l'instant, on est plus sur qui va être élu président. Mais c'est genre, c'est pas le sujet quoi finalement. Bref,
au final,
et oui, normalement, il y a un bouquin après Winds of Winter, Dream of Spring, un rêve de printemps. Ah, on est en rêve d'hiver pour l'instant. Quoi.
On peut toujours rêver.
Oui,
rêver
tout
au
à
printemps
fait.
Qui arrive. Entre
on est dans la Long Night depuis un moment.
Quoique, il a dit, il écrit les deux en même temps. Non, il a pas dit ça.
Il y a une forme de miroir un peu, ouais. Mais je crois, mais pas sûr que ça veuille.
Quand
dire
il a dit après Winds of Winter, ça ira plus vite.
On espère, hein. Il a dit beaucoup de choses, George R. R. Martin, sur sa rapidité d'écriture, mais on l'embrasse, puisque finalement, on est toujours, oh, ça a fait un bouip. Oh là là! Merci beaucoup, Myrillion. Oh, mais 3 mois de sub. Incroyable. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. N'hésitez pas beaucoup à sub à la chaîne si vous aimez mon contenu, et retrouvez-moi sur Patreon, où il y a notamment maintenant tous les récaps rigolos de House of the Dragon qui sont en ligne, puisque la saison est finie. J'ai réussi à être marrante sur ce dernier épisode, alors qu'il y a une fausse couche manuelle très compliquée à gérer, ok, mais et aussi un enfant qui meurt. Enfin, deux enfants qui meurent, du coup. Mais j'ai réussi à être marrante, c'est le talent. Du coup, abonnez-vous à mon Patreon. Tequila
ouais.
Tex, salut.
Salut.
On s'est pas vu mardi, on s'est manqué.
Non.
Comment ça va?
Mal.
Est-ce que tu veux dire un peu aux gens qu'est-ce qu'il y a?
Ouais, à un moment, je vais me lever parce qu'il faut que je fasse j'ai un truc à la jambe. Vous savez, You either die a hero or live long enough to become Viserys Targaryen.
Premier du nom. Et donc
j'ai un truc de merde à la jambe qui fait que c'est pas bien, c'est pas très bien pour moi si je reste.
3 heures assis.
Tu vois, j'ai mis des chaussettes de contention comme un bon Viserys Targaryen.
Est-ce que tu t'es blessé sur ton trône de fer, demande Jim.
Ouais, un peu de ça.
Du coup, de temps en temps, t'es
sans déconner, on n'est pas loin. Et en fait, il y a des petits moments, il y aura des petits moments d'absence. Ne m'en voulez pas.
C'est pas grave.
J'ai quand même tenu à venir.
Mais ça me fait très plaisir que tu sois là.
Et honnêtement, ça va, tu vois.
Oui, ça a l'air quand même.
Je suis pas au fond du gouffre.
Il nous a amené du fromage, un medley des meilleurs fromages qu'il nous a fait découvrir jusqu'à maintenant. Car sachez que à chaque fois, Tequila Tex amène l'apéro. On a mangé du poulet
Merci
rôti.
Merci à tous les gens du chat qui disent bon rétablissement.
Oui, vous êtes très choux. Et je suis sûr que Tequila va se rétablir.
King Julianus.
Oui, on a des rois, des reines, on a le Nord qui se souvient et on a des frites, quoi. On a beaucoup
et
de
tout plein de gens.
De populace sur ce chat.
Ouais, merci.
C'est pas comme si on était parti sur 5 heures de live,
merci
non.
Merci à tous.
Non, on va peut-être aller un peu plus vite que d'habitude quand même sur le débrief de l'épisode en soi, parce que déjà, on l'a bien fait, notre doudou, Nodus et moi, la semaine dernière, enfin, ce mercredi en podcast.
J'aurais bien aimé être là. J'ai même pas eu le temps de regarder, tellement j'étais speed.
Mais c'est pas grave. En gros, c'était plein de questions pratico-pratiques, genre, c'est qui le gros dragon à qui Daemon y chante?
C'est bien, on a fait le tour alors de ces trucs-là.
Normalement, on a fait le tour de ces trucs-là.
D'accord.
Si vous en reste une ou deux, mettez-les dans le chat, mais normalement, on a bien répondu. Et ça nous a pris vraiment 2h30 de tournage, par contre, non-stop. C'était, Nodus, il était là. Ah, mais c'est long, en fait. Je lui avais dit une heure et demie. J'avoue, j'avais eu, confiance dans ma capacité à être concise. Je devrais savoir que ce n'est pas ma qualité principale.
Bon, mon père m'a toujours dit, t'as un bon esprit de synthèse.
Ah ouais? Est-ce que ton père, il écoute nos podcasts?
Pas vraiment. Par contre, il regarde la série.
Ah,
et en fait, des fois, il me demande, il me dit, envoie-moi le podcast, mais... Je sais que je vais envoyer un lien dans le vent, donc.
Il est pas technologie.
Non.
Je comprends. Ouais, ma mère, enfin,
il l'est, en fait, c'est en surface, quoi.
Je comprends. Ma mère, elle est très podcast, et du coup, quand elle a vu que je tournais un podcast au Maroc, dans ma famille, avec Doudou et Nodus, elle était là, oh, ben, je l'écouterai, parce qu'elle croyait que c'était genre un podcast sur notre expérience au Maroc et tout, et je lui ai dit, non, c'est sur une série avec des dragons, elle était là. Ok, ma fille, bah, du coup, je l'écouterai pas. Oui, alors, attends. The North Remembers rappelle que je me suis plantée sur le grand-père Daemon Targaryen. Ok, j'ai trois rectificatifs à faire par rapport à des choses peut-être un peu erronées que j'ai dites dans l'épisode précédent.
Il y a un super chat.
Oui,
là.
Camouflage caca. toujours un incroyable hâte. Je ris à chaque fois, mais c'est drôle à chaque fois. Merci beaucoup pour le resub. Du coup, trois rectifications. Donc, en effet, j'ai dit que l'un des personnages qu'on a vu dans House of the Dragon était le grand-père d'un vieux personnage de Game of Thrones. Je me suis trompée, c'est son arrière-arrière-grand-père. Ok, j'ai pris un peu d'avance, on a deux ou trois générations d'écart.
De Aemon?
Ouais, de Aemon Targaryen. Je sais pas son grand-père, son arrière-grand-père. J'ai dit que Tyland Lannister au conseil de Alicent gérer la thune, alors que non, c'est juste qu'il décide de gérer la thune, mais son job c'est Master of Ships, c'est Lord Bisbury, le monsieur qui se fait éclater la tête par Criston Cole, qui gérait la thune, qui était grand argentier. Merci Nessine, attends, comment ça se prononce? Nessie, je me suis lancée avant d'avoir lu, j'ai regretté. Merci beaucoup Nessine et Thierry pour le sub.
Nessine, Thierry.
Waouh, merci Bernard, oh là là. Le train de la hype approche, attention.
Ah, il y a du train de la hype là.
Non,
je dois faire des chansons, je fais des chansons. Si vous vous sub, je fais une chanson sur votre nom. C'était qui le sud avant qui a sub?
Et Bernard.
Caca, le caca là, c'était comment il s'appelle?
Camouflage caca.
Camouflage caca ninja dans la nuit. Il se camoufle, se déguise en caca pour éviter les ennemis.
Franchement, c'est trop bien, c'est hyper vendeur comme produit d'appel. On va bosser sur un business avec Tequila Tex.
Ok, si vous subez, je fais une chanson sur
votre hâte. Incroyable aventure humaine. Et le dernier truc, c'est que j'ai dit que sur la fameuse page de livre que Alicent fait parvenir à Rhaenyra via Otto pour lui rappeler qu'elle s'aimait avant, j'ai dit que le contenu de la page n'était pas forcément important. En vrai, quand même un peu, parce que c'est l'histoire de Nymeria, une princesse dornienne et aventurière des mers qui d'ailleurs...
Méga important.
Oui, j'avais oublié que c'était à ce sujet-là. Qui d'ailleurs fera peut-être l'objet d'un spin-off, puisque c'est en discussion. Il y aura peut-être, le spin-off sur Corlys, le Sea Snake, est toujours en cours. George R. R. Martin a dit il y a quelques jours qu'il continue à travailler dessus. Il y avait des gens qui pensaient qu'il était annulé, mais non. Et il y aura peut-être un spin-off sur Nymeria et ses très nombreux voyages à travers les mers. Et en
Nymeria,
effet,
elle est allée où? Tu sais?
Elle est allée...
Rappelle-toi.
Assaï.
Avant d'arriver à... Non, pas à Assaï.
Est-ce qu'elle est... Attends, elle vient de Dorne. Elle est allée au-delà du...
Elle vient de Roine. Elle vient de Essos, en fait. Toute l'histoire, c'est l'histoire des Roynards, en fait.
J'ai vraiment regardé sur Wiki il y a 10 minutes. Vas-y.
Nymeria, c'est l'histoire des Roynards, en fait.
Ok.
Tu vois, en fait, ils viennent de ce... Comme le Nil à Essos, tu vois. Ouais. Ils se font harceler la gueule par les Valyriens. Et donc, ils se cassent.
Ils font bien.
Ils vont de Essos. Ils passent par les Thousand Islands. Basilisk Isles, je crois.
Ok, au sud.
Et
donc.
Ils ont des galères. Ils passent par Sotorios. Et ils vont à Yin.
Yin, c'est trop bien. Ah non, mais là, je suis parti loin dans ces délires. Hein.
Ils vont à Yin. Yin, c'est genre un Assaï bis, mais abandonné.
Yin, c'est une ville de pierres noires mystérieuses maudites, là, comme il y a dans certains endroits de Planetos, qui est au milieu d'une jungle, et c'est des blocs tellement grands qu'il aurait fallu genre 12 éléphants pour en déplacer un. Et c'est une ruine hyper ancienne et personne sait qui vivait là.
Et la végétation ne pousse pas.
Et la jungle ne touche pas, donc c'est genre une zone morte au milieu d'une jungle.
Et c'est abandonné, c'est maudit.
Et genre,
ils sont installés à Yin pendant genre 3 semaines et genre la moitié sont morts. Ils ouais. sont genre, ok, on se casse.
C'est pas un bon endroit. Oh là là. Attends, t'as des chansons à faire.
Ah, attends,
il y a Paul. Polygame, c'est un pote à moi qui s'appelle Paul et qui t'aime beaucoup d'ailleurs.
C'est quoi son
nom? C'est abonné. Là, c'est Polygame. Son at.
Polygame, c'est une histoire d'amour. À plusieurs, c'est un lifestyle qu'il faut accepter car toutes les façons d'aimer sont valables.
J'espère que t'es content d'avoir une chanson sur le polyamour, Paul. Et il y a Mintara qui a offert un abonnement. Donc merci beaucoup, Mintara. Et bravo, Mouf, qui a gagné un abonnement. Et je vois qui tu es, Mouf. Je te follow sur Twitter.
Mouf.
Hello.
Mouf. Donc c'est Mintara qui a quand même mis la thune.
Ouais.
Donc c'est Mintara qu'on chante.
Ouais, quand même. Mouf a eu de la chance. C'est déjà bien.
Mintara, Mintara, dans la jungle de Sotorios, Mintara, tu vas découvrir les mystères. Attention si tu vois des wyvernes, attention si tu tombes sur la cité maudite de Yin, attention Mintara, je crois en toi.
C'est incroyable ce qui se passe. Waouh. Tequila Tex, qu'est-ce que t'as pensé de ce final? On n'a pas eu ton avis. Les gens ne savent pas.
Eh ben, c'est pas nul.
Non, c'est pas nul. Il n'y a pas grand-chose de nul.
C'est bien. Mais c'est quand même très prévisible.
Bah toi, tu le savais que ce petit Lucéris, il allait se faire crunch. Est-ce que sur le chat, vous l'aviez vu venir, notamment avec le fait que Lucéris ouvre l'épisode alors qu'on n'a pas beaucoup vu ces gamins? Enfin, ils n'ont pas eu beaucoup de scènes à eux, quoi. Est-ce que vous l'aviez vu venir qu'il y a un gamin qui va mourir, ça va être ça le gros truc du final ou pas? Dites-le nous sur le chat. Toi, tu le savais?
Honnêtement, moi, même si je le savais pas, j'ai vu assez d'épisodes de Lost. J'ai vu assez d'épisodes de toutes les séries télé, en fait.
Même Walking Dead et tout, hein, faisait
pour ça. Ouais, exactement. Pour savoir que quand ils te font essayer de tirer une petite larme avec un petit personnage pensif.
Il est très mignon en plus, ce gamin.
Au début d'une série.
L'acteur, il a des grands yeux, une petite bouille ronde et tout. J'étais là, oh non.
Qui caresse un peu la table avec la, tu vois, la table avec la
carte de Westeros
dessus. Avec la carte et qui caresse Driftmark.
Table qui a eu un reboot d'ailleurs, un makeover. On va en parler.
Qui caresse la table en disant, ah, Driftmark. Putain, j'ai pas envie d'être le truc de Driftmark.
Parce que tous les gens que j'aime, ils sont morts.
Quand un personnage pense à son destin au début d'un épisode, ah là là, il va canner! Il va canner! C'est
surtout
toujours
quand sa
comme
mère
ça!
Le rassure en lui disant, tu as encore le temps d'apprendre,
ouais,
la vie est longue, tu es jeune,
no,
et toi,
no,
tu
no.
vas...
Il no,
est sur
no,
la réserve,
no,
c'est
no,
48 dernières heures,
no,
là.
No freaking way! Et donc, voilà. Donc, il est mort, ouais,
Il y a quelques personnes qui disent, en effet, c'était sûr et tout, mais, il y en a quand même pas mal qui disent, j'avais pas vu venir qu'il se fasse quand même croquer par un dragon. Et c'est vrai c'est la première fois qu'on voit des dragons qui se battent entre eux, donc ça, c'est quand même, alors, ça va être un thème, hein, ça s'appelle la danse des dragons, toute cette période dans laquelle on arrive, mais c'est quand même visuellement,
moi, j'ai adoré Vagar Godzilla, qui montre sa tête, quand
derrière les murailles de Storm's End, là.
Alors là, ça, j'ai hâte.
C'est le moment où Luke, il aurait dû dire « Je vais rentrer ».
Adoré cette image.
Ouais, c'est un kaiju, hein, vraiment.
J'étais genre « Wow, le kaiju de ouf !»
La taille du
truc. Vraiment, là, tu te rends compte, encore plus que pendant la bataille aérienne de la taille du truc. Et la bataille aérienne, je l'ai trouvée vraiment bien, trop courte. Et vraiment trop bien, trop ouais. trop bien.
J'ai juste pas aimé le rire de méchant Disney de Hammond. Vraiment. Si. Alors j'ai aussi un truc de, je pense pas qu'ils s'entendent, ils vont vite et tout, mais ok, c'est des dragons, j'enlève du côté cartésien. Mais vraiment, Hammond qui est là en mode, nephew, j'étais là, oula. Il est déjà un peu intense comme personnage.
Ouais, mais...
ils ont gardé le saphir et tout. J'ai dit dans le podcast, je suis pas hyper fan du saphir, mais ok. Là, c'était un peu trop. Mais du coup, le fait que ça soit un accident, j'ai trouvé ça encore plus
ça
intéressant,
c'est...
tu vois.
Ouais, alors moi, ça me saoule un peu.
T'es pas fan?
Non.
Alors, parce qu'on a dit là, dans le podcast qui est sorti mercredi, mais que vous avez peut-être pas écouté, dans le bouquin, on ne sait pas que c'est accidentel la mort de Luke et que c'est les dragons qui ont désobéi à leurs cavaliers, ou qui ont peut-être exprimé ce que leur dragonnier voulait qu'ils fassent vraiment, hein.
C'est ça.
Voilà, ils ont quand même, ils lisent bien les émotions, ils sont un peu empathiques, les dragons. Mais dans le bouquin, c'est présenté comme Aemond a tué Lucerys volontairement. Donc là, le fait qu'il y ait un aspect quand même qui a l'air accidentel et où Aemond, il fait vraiment une tête en mode, oh merde, ça change la donne un petit peu sur la lecture du personnage et de ses événements déclencheurs de la guerre.
Tu vois, quand dans un film d'horreur, tu regardes des films d'horreur, tu vois pas beaucoup.
Des fois.
Quand dans un film d'horreur, il y a une créature un peu puissante et un personnage qui a une, il a cette créature, il la cache dans son cartable et tout machin, et à l'école il se fait bully et il dit ah, j'aimerais trop qu'un tel il meure et j'aimerais trop lui donner sa leçon à un tel, et tu vois, et le lendemain
fais attention,
la créature
à ce que tu
a tué le bully et la personne et le petit personnage enfant dit mais non, mais je voulais pas le tuer, t'es allé trop loin créature. Et ben là c'était pareil avec le dragon un peu.
Ouais, pas à ce point là parce qu'il a quand même chevauché le plus gros dragon du monde derrière un gosse de 14 ans. Donc bah, une des questions qui est le plus revenue dans le podcast, c'est il s'attendait à quoi? Pourquoi il fait le mec surpris? Genre il s'attendait à quoi? C'était sûr que ça allait mal finir. Effectivement c'était sûr, mais il a 17 ans et c'est un petit con. Est-ce que tu veux faire une chanson pour French Fry qui a sub? C'est French Fry, mais avec un A.
French Fry, French Fry. What you gonna do? What you gonna do? En Amérique, on aime les frites. On aime les freedom fries. Voilà.
Merci, c'était très beau. Est-ce que tu vas faire une balade? Non, ça va?
Non.
Ok. Donc, à part Hammond et cet aspect accidentel, t'as passé un bon épisode. Qu'est-ce que t'as pensé?
Non, moi, en fait, je suis prêt à accepter que Rhaenyra et Alicentre aient été amis, rentrent un peu dans cette Dance of Dragons sans le vouloir, enfin à contre-cœur, mm-hmm. sans vouloir que ça escalade.
Oui.
Rentre un peu dans. Je suis.
Bah, il y a toujours des moments où il y avait des portes de sortie, quoi. De plus en plus compliqué à prendre.
Thématiquement content que ils nous les humanisent un petit peu.
Oui, ça fait.
Thématiquement
fonctionne.
Content, etc. Je suis pas content qu'on humain. Je veux que moi j'aime que mes méchants soient méchants. J'aime que mes méchants aient des soient sadiques, soient vraiment genre soient tordus, soient imprévisibles, soient rancuniers, soient. J'aimerais que je sais pas si c'est une volonté de nous mettre Aemond en mode un petit peu plus trois dimensionnel.
Oui, ça le rend moins méchant de Disney, déjà.
Moi, j'ai quand même besoin de savoir que c'est une ordure, en fait.
Bah, après, je pense que c'est quand même une ordure et je pense que ça va pas. Alors, je pense pas que c'est un spoiler de vous dire que, parce que narrativement, ça n'aurait pas de sens, mais Aemond ne va pas se dire, OK, j'arrête la guerre, je deviens hyper gentil et doux. Enfin, il est clairement ma bully tax.
Non, mais je pense que
ça va être aussi un des éléments déclencheurs, peut-être, de à quel point il est cruel et méchant comme tu veux le voir, quoi. Mais s'il commence direct en une dimension, c'est un peu
peut-être.
Genre, ah ok,
peut-être.
C'est leur méchant de Disney.
Ouais, peut-être.
C'était mais qui ton méchant préféré dans Game of Thrones? Il y avait Lucie qui demandait.
Dans Game of Thrones?
Ouais.
Bah, on avait vraiment envie que Joffrey meure.
Oui.
On avait méga envie que Joffrey meure, on avait méga envie que Bolton meure.
Frey aussi, il était bien. Walder Frey.
Ouais, Walder Frey,
il se faisait. Tu le détestais très vite, quoi.
Ouais, mais lui, il était presque trop Disney, lui, du coup.
Ouais, je sais pas, ce truc hyper rancunier, tu vois, juste de vieux gars, tu sais, c'est le vieux retraité de ton immeuble qui fait chier pour faire chier,
vrai,
là.
C'est vrai.
Je trouvais qu'il marchait bien.
Ouais, c'est vrai.
Et effectivement, Tywin Lannister était quand même très sympathique à regarder.
Mais Tywin, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je l'adorais, Tywin.
Oui, non, mais
j'adorais.
Oui.
J'aimais pas le.
Incroyable.
Je l'aimais comme méchant. En fait, il y a avoir envie que quelqu'un crève et avoir vraiment envie que, et tu vois, et être un peu. J'étais un peu fasciné. Fasciné et
haine amour avec Tywin. Il y a une forme de respect
quand même. Ouais, avec Tywin. J'avais un peu de respect.
Alors qu'il
quand
fait des
trucs disait,
horribles.
The lion doesn't concern himself with the opinion of the sheep. J'étais genre, oh là, ouais.
On a un peu envie d'être dans, on a un peu quand envie qu'il nous respecte, tu vois.
Ouais,
alors
exactement.
Que lui, c'est un connard. Et après, oui, ouais. C'est vrai que l'acteur Charles Dance fait quand même beaucoup pour le charisme. Alors, je sais que dans les bouquins, j'aimais déjà bien Tywin. Parce que son rapport avec Jaime, son rapport avec Tyrion, avec Cersei et tout, il est hyper intéressant. Mais c'est vraiment Charles Dance qui lui a donné un niveau de charisme
incroyable,
bon, inégalable quoi, ou rarement égalé.
Non,
en tout cas.
Celui que je détestais aussi, c'était le fucking Septon là.
Ah le High Septon.
Ah, ouais, je détestais parce qu'il faisait trop le gentil, m'énervait.
Mais les maxi religieux, ils sont toujours.
M'énervait trop. Et moi j'ai ce truc de non, tout s'explique par la religion en fait, la foi.
Oui, et les gens qui ont du pouvoir dans la religion et qui font genre, ils sont trop nobles pour ça, tu vois. Ils sont là en mode, non, mais moi, je veux pas le pouvoir, c'est juste Dieu qui m'a mis là. Oui, ça t'arrange bien quand même d'être chef de tout le monde.
Pour moi, l'intégrisme et les trucs comme ça, c'est un truc... surtout quand il a un visage de mec bienfaiteur, tu vois.
Ouais, d'Abbé Pierre un peu, de mec gentil. Cersei, ouais, c'est une méchante. Et en fait, ça dépend ce que vous voulez dire par méchant préféré, quoi. En soi, mon méchant préféré, c'est Jaime, parce que mon personnage préféré, c'est Jaime, et que c'est quand même un méchant. Enfin, c'est pas un mec sympa, quoi. Même si on sait pourquoi il a tué Aerys et tout, c'est vraiment.
Oui.
C'est un. Et je l'aime parce qu'il a un truc de. Voilà. Et
non,
je pense que. Alors, le showrunner a dit que Ryan Condal a dit qu'il était un peu surpris par le niveau d'amour des gens pour Daemon, parce que pour lui, Daemon, c'était un peu un Jaime Lannister, et du coup, les gens devraient avoir à peu près la même relation. Et je suis là, mais on était déjà quand même. Pas mal in love de Jaime Lannister, hein. Faut le savoir. C'est les anti-héros, ça marche bien quand ils ont la gueule de Matt Smith et la voix de Matt Smith, ça aide. Et après
j'aime
l'inceste.
J'aime trop Daemon, mais je veux pas être Daemon.
Ah non. Tu vois, il est intense quand même. Hein. Il a pas une vie.
Je peux pas me ranger derrière Daemon.
Qu'est-ce que t'as pensé de la scène où il étrangle Rhaenyra? Ça a choqué plein de gens.
Moi, ça m'a pas choqué parce qu'il a quand même tué son ex, faut pas oublier, tu vois.
Mais d'accord quand même.
Et genre, ça fait partie du personnage un peu incontrôlable, un peu connard, un peu... Justement, c'est un petit peu genre, l'aimez pas trop.
Oui, c'est ça, va falloir se rappeler que on est dans une série où, a priori, il y a peu de méchants, et peu de vrais gentils.
Il faut pas trop l'aimer, Daemon. Il faut l'aimer, mais il faut l'aimer en sachant que c'est un full connard, en fait.
Oui, c'est ça.
Tu vois?
Et il est décrit dans le livre comme peut-être jamais un homme n'a été aussi polarisant. Il était un héros aux yeux de la moitié et le pire démon aux yeux de l'autre moitié, quoi. Et George R.R. Martin, c'est un de ses personnages préférés à écrire parce qu'il aime bien les personnages justement ambivalents qui mettent le public dans une situation un petit peu le cul entre deux chaises. Ok, on va faire un petit bilan de cette saison 1 de House of the Dragon avec quelques questions qui font partie des questions que vous m'aviez posées sur Instagram.
Il y a un autre truc, mais alors on va dans le lore, hein.
Bon, vas-y, on va
mais
dans le lore.
C'est
pas du spoil, c'est du lore, donc genre des trucs. Ah, je voulais te demander si t'avais un poème poisson déjà, bien sûr.
Non, j'ai pas de poème poisson là.
Quand
non, mais
Lucéris
en fait.
Ressortira des eaux.
Non, mais je voulais que je vous dise un truc. Ma relation avec les hommes poissons est en train de s'amoindrir depuis que j'ai découvert The Newest Hot Chick in Town, The Great Empire of the Dawn.
Friendship ended with the drowned god. Now we best friend with the great empire of the dawn. C'est toujours une incroyable théorie sur les ancêtres du peuple de Asai, qui est une ville très mystérieuse, tout à l'est de Essos. Voilà, on en parlait tout à l'heure.
Si vous êtes intrigué,
c'est
hein,
aussi
et
sur
l'origine
des dragons.
Vous avez peur de vous faire spoiler, mais c'est un peu comme oh là là, on a peur, on est attiré quand même.
C'est chaud. Ah, je vais toucher quand même. Vous
ouais,
avez
exactement.
Envie de toucher quand même.
Et ben, je vous conseille la deuxième partie de cette émission.
Tout à fait.
Mais donc le point lore, c'est Vermithor.
Oui, alors Vermithor, c'est donc le gros dragon auquel Daemon chante une chanson au Valyrien. Chanson que dans le podcast, on a écouté et de traduit de l'anglais au français parce que c'est, on a la version anglaise. Et qui, alors à la fois, il y a la, le fait de voir Vermithor et essayer de comprendre ce que Daemon est en train de faire, on peut en parler. Et après, il y a de la signification plus profonde des paroles de la chanson en haut valyrien, dans laquelle je me suis pas trop apesantie dans le podcast parce qu'on était quand même sur un truc...
Ça, on va le faire tout à l'heure.
Voilà, moins nerd, mais on le fera dans la deuxième partie. Mais du coup, est-ce que déjà, toi, t'as compris que c'était Vermithor? Je sais même pas comment c'est possible de le savoir, honnêtement.
Je sais pas si je l'ai compris ou si j'ai vu... un recap du preview de l'épisode au moment où l'épisode précédent a joué.
Oui.
Où quelqu'un disait ça c'est Vermithor.
Ah. Et Oui, apparemment le previously. Alors moi je regarde pas les previously on House of the Dragon, mais apparemment il était très complet et il rappelait la page, il rappelait pas mal de choses.
Non, mais là moi je parle du teaser de l'épisode d'après.
Ah d'accord. Tu vois, à la fin de l'épisode 9.
Ouais, à la fin de l'épisode 9. J'ai maté l'épisode, tu peux mater le preview de l'épisode d'après, et tu peux aussi mater des gars qui font des vidéos sur, où ils décortiquent le preview de l'épisode d'après.
Yes.
Tu vois? Et là où ils étaient genre, donc ça c'est Vermithor.
Ok.
Et voilà.
Wink wink.
Moi j'ai une question. Enfin moi j'ai une, non, c'était pas le cannibale, il y a quelqu'un
qui... Le cannibale, il est sauvage.
Le cannibale, on peut pas l'approcher. Ouais. Vermithor, il a déjà eu des riders. Quels sont-ils?
Jaehaerys, le roi d'avant Viserys.
Exactement. Donc Vermithor, il est dans sa cave, mais si tu lui chantes une petite chanson, il est content de te voir. Tu vois ce que
ouais,
je veux dire?
Ouais, il te fait même un petit coup de feu de... Je note en même temps, mais je suis avant. Ouais. Il te fait même un petit coup de feu de bienvenue, il est poli.
Ouais, exactement. Donc il va pas te... Surtout si tu lui parles au Valyrien, il va pas te cramer la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Juste, il a pas de maître. Pour l'instant.
Oui, personne n'a essayé de le claim depuis, puisque la plupart des Targaryens ont des œufs qui éclosent. Il y en a quelques-uns pour qui c'est pas le cas. Ah, on l'a pas noté dans le podcast quand on a fait le point qui a quel dragon. Mais Elena Targaryen, son dragon Dreamfire, c'est pas un jeune dragon qui a éclos avec elle. C'est l'ancien dragon de Alizane, la reine d'avant Viserys, enfin, la femme de Jaehaerys, qui était le roi avant Viserys. Donc elle a un gros dragon. Elle a un plus gros dragon que, par exemple, Arrax qu'on a vu là, qui est plutôt petit. Voilà. C'est bon à savoir. Mais bon, on l'a pas encore vu, dessus. Et, on n'a pas encore vu, je crois, Dreamfire du tout. Ah si, peut-être.
Si, on l'a vu.
C'est lui que
Aemond
va voir, oui, dans la caverne. Et je vous avais dit c'est le dragon de Helena, et après j'étais là, est-ce que c'est un spoiler ou pas? Attends, il y a encore un abonnement qui a été offert à Lucéris Velaryon, merci beaucoup. Alors j'ai compris ce qui se passe, parce
Anonyme.
Que déjà au dernier live, il y avait des gens qui offraient des abonnements à genre Viserys Targaryen et tout, et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tu peux juste... En fait, c'est des users, ils sont pas sur mon live, mais tu peux dire j'offre un abonnement à @tequilatex, et si quelque part il y a un @tequilatex sur Twitch, ça okay. va lui offrir, tu vois. Donc c'est juste, je ne sais pas qui s'amuse à faire ça, mais merci beaucoup, ça me fait quand même des subs. Merci à Lucéris Velaryon. Donc, Vermithor.
Alors, il y a quelqu'un qui dit les Velaryons ont du sang valyrien. Oui.
Oui.
Mais
c'est une famille
bizarre.
De Valyria, mais pas des Targaryens.
C'est bizarre parce que c'est pas des Dragon Riders.
Mais qu'est-ce qui est bizarre?
Qu'ils soient valyriens et pas Dragon Riders.
Bah, c'est... Attends, j'ai regardé trop de vidéos, là. Il me semble que c'est... Qu'ils étaient là avant même les Targaryens.
Non, ils étaient... Ils sont arrivés à Westeros juste avant les Targaryens.
Non, mais qu'ils étaient à Valyria, peut-être. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas toujours eu des dragons. C'est que les dragons ont été créés, genre. Et je pense qu'ils étaient là avant qu'il y ait des dragons. Et du coup, bah, eux, leur truc, ça a toujours été la mer, tu vois, et pas les dragons.
Ouais, mais moi,
et ils ont juste duré parce qu'ils ont suivi les Targaryens, je crois.
On va y revenir dans la partie lore, mais pour moi, les Valyries...
The North Remembers dit j'ai raison. The North Remembers, je pense que c'est la personne qui m'a envoyé des DM pour me rappeler que je m'étais trompée sur Daeron et Aemon et tout, donc je pense que c'est une personne très nerd. Donc ils étaient là avant qu'il y ait des dragons, a priori, et ils font les bateaux, du coup, depuis
ouais,
toujours.
Ouais, mais avant qu'il y ait... À Valyria... C'était des tribus. Alors
oui.
Peut-être que les Velaryons, c'était une tribu maritime.
C'était la tribu, la tribu okay. bateau. Et les autres, c'était la tribu berger.
C'était des bergers.
Qui a fini par contrôler les dragons. D'où viennent-ils? On en parlera en temps voulu.
D'accord.
Donc Vermithor, qu'est-ce que tu penses qu'il fait, Daemon? Pourquoi il lui chante une chanson? Parce qu'il y a plein de gens qui étaient là. Attends,
déjà,
mais Daemon, il a déjà un dragon. Il
déjà,
peut pas en avoir un
autre.
Il y a
la version... française de la
ah top
de la
chanson qui est sortie,
c'est Vermithor où es-tu?
Moi je l'écoute.
Tu es né grâce à un mélange de plusieurs peuples,
petits animaux, Vermitor, Vermitor, où vas-tu? Dans les airs, dans la mer, dans le...
Dans la pierre.
Caverne.
Ah, c'est ça, la chanson.
Ça, c'était un cracheur de feu.
La chanson de Vermitor. On aime beaucoup. C'est la version française. Et si vous mettez les... Si vous réglez les sous-titres en...
Ouais, bref. Ouais, si vous mettez en...
Et donc, c'était quoi ta question?
Qu'est-ce que tu penses qu'il est en train
parce
de faire, Damon?
Penser, c'est ça.
Non. Il fait quoi, Damon? Pourquoi il lui chante
Je
une chanson?
Je sais pas pourquoi il lui chante une chanson, parce c'est qu'il bizarre. Va pas... Il a déjà un dragon, Damon.
Oui, il a déjà un dragon. Il a l'air
génial.
De
qui est le meilleur dragon.
C'est un très bon dragon. C'est le long, là. Le long rouge avec son long cou, vous voyez. Le dragon de Damon, il est chelou.
Il a une forme de X-Wing dans Star Wars.
Ah, je suis pas très Star Wars, mais je te
il
crois.
Il a une forme de X-Wing dans Star Wars, un long cou de dragon chinois et des petits ailerons sur les jambes. Et son visage est aussi en X. Donc, oui. Son visage rappelle le design de son corps. Et il est génial, ok? C'est le meilleur, ok? C'est le meilleur dragon. Il est trop bien designé.
C'est vrai que c'est le meilleur dragon.
Moi, je pense
c'est
que...
le dragon dont le cri est le plus complexe. Il y a un truc genre 60 sons différents dans son sifflement aigu, là, trop bizarre qu'il annonce.
Est-ce que quelqu'un dans le chat peut se rappeler? Qu'est-ce qu'un dans le chat peut se rappeler le jour où vous voyez un truc genre Hot Toys ou je sais pas comment ça s'appelle? Une figurine, un truc, même des trucs chers. Je suis DJ, je gagne bien ma vie, j'ai de quoi investir. Je dépense pas beaucoup d'argent à part dans les restaurants, mais je peux pas me payer 1 milliard de figurines Game of Thrones, j'en ai rien à foutre.
Oui.
Je peux pas me payer 1 milliard de figurines.
On n'a pas des Funko Pop.
Mais j'en ai rien à foutre des Funko Pop.
Pareil.
Mais si vous me trouvez un Carax,
Caraxes,
en figurine, en statuette. Et qu'il est bien. Est-ce que vous pouvez venir dans mes DM Instagram et m'envoyer un lien, s'il vous plaît?
Mais oui, mais envoyez-le moi, on va se le faire envoyer.
Infiniment.
Attendez, on va se faire sponsor.
Non, mais pas.
Par des figurines de Caraxes.
Oui, non, mais je veux dire, je pense qu'elle devrait pas encore être sortie aujourd'hui parce que. Mais le jour où ça sort et que moi j'ai zappé et que vous tombez sur ce truc-là, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça?
Alors, Star Spike, on n'oublie pas le dragon de Aemond, Vhagar. On n'a pas dit qu'Araxes c'est le plus gros, on a dit que c'est le plus cool. C'est pas pareil.
Il y a quelqu'un qui dit du coup, Arax va être à claim.
Non, Arax, non, le dragon de Lucerys, Arax, hein. Il s'est fait vraiment... disons que là, on a mangé un poulet rôti. Bah, Arax, c'est pareil, quoi. Il est dans le même état. Donc, il est mais pas rôti.
Bah, il est rôti aussi. Ah non.
Bah, de l'intérieur, quoi. Ouais. Et alors, quelqu'un disait, ok, Gepard Solid dit, ils sont pas obligés de monter sur les dragons pour les contrôler, Daenerys en avait 3 qui écoutaient ses ordres, pourquoi Daemon pourrait pas se battre avec 2 ou 3 dragons? Alors, Daenerys ne contrôlait pas vraiment ses 3 dragons, elle était surtout liée à Drogon, son plus gros dragon, là, le noir, celui qui finit par brûler le trône de fer, si je dis pas de bêtises, et il y a tout un arc où elle est obligée d'enfermer ses dragons, justement, c'est où? C'est à Meereen. Dans une fosse et tout parce qu'ils sont incontrôlables, donc où il y a vraiment un arc narratif de elle les contrôle pas et à un moment elle se fait embarquer par un de ses dragons contre sa volonté qui la largue dans le désert où il y a les Dothraki qui viennent la rechercher et tout, enfin, et elle peut pas rentrer parce qu'elle est coincée avec son dragon qui va pas où elle veut, donc je pense pas qu'on peut dire qu'elle contrôlait ses 3 dragons,
non,
mais après
mais
elle a pas eu de cours et
Dracarys,
tout
quand même.
Oui, c'est le seul truc qu'elle leur fait mais faire et après ils la suivent, mais
ils ont un lien parce que ils ont un lien parce qu'ils ont tous les 3 et c'est comme s'ils avaient tous les 3 été placés dans son
berceau. Ouais,
dans son berceau.
Oui,
je pense
mais je pense
que faire
pas que ça
avec
dire
des...
qu'elle est bind avec chacun des 3 et d'ailleurs Jon Snow en conduit un, alors que normalement un dragon c'est un seul dragonnier, donc c'est bien qu'elle est pas dragonnière de ces 3 dragons, pas officiellement, je crois. Après les nerds vous me dites, et aussi comme quelqu'un a dit, Daenerys elle est un peu cheatée niveau magie parce qu'elle concentre plein de trucs, parce que c'est avec elle que la magie revient dans le monde, parce qu'elle devrait même pas avoir des dragons, il y en avait plus, et pourquoi ils éclosent, plein de théories là-dessus.
En fait, elle a fait le blood sacrifice nécessaire pour que ces 3 dragons naissent,
dont Daemon parle dans sa chanson.
Voilà.
Mais on en causera.
C'est elle qui l'a fait, donc c'est elle qui a priori plus ou moins bind avec ses 3 dragons. Mais c'est contrarié par le fait que Jon monte dessus à un moment. Mais
après, on sait que dans la série Game of Thrones, et notamment dans les dernières saisons, ils étaient pas à fond sur le lore. Tout n'est pas cohérent, surtout pour l'aspect magique qu'ils ont pas trop développé.
La série, hein, pas les livres. Hein.
Dans la série, ouais. et que George R. R. Martin n'a pas forcément été consulté pour beaucoup de choses. Donc il y a aussi des choses qui sont dans la série, comme Jon Snow qui monte sur son dragon, qui sont pas encore arrivées dans les livres, qui vont peut-être pas arriver dans les livres, qui vont peut-être être changées dans les livres parce que George R. R. Martin est saoulé. Et donc s'il y a des choses qui ont l'air incohérentes, bah c'est peut-être parce que les gars qui ont écrit la série, c'est pas les gars qui écrivent les livres et qui ils s'en foutaient un peu de la magie et que
pas les crabes les plus intelligents du panier, hein, si je puis.
Oui, c'est pas les pinces les plus coupantes du panier, tout à fait.
Mais en vrai, les règles de dragon binding et tout le bordel et tout, on va en parler, mais c'est un sacré délire.
Oui. Est-ce que Rhaenyra va être la rider de Vermithor? Rhaenyra a déjà un dragon qui s'appelle Syrax. On la voit arriver sur le pont pour mettre un coup de pression à Otto avec. Donc a priori, elle a pas plus de raison que Daemon de chevaucher Vermithor.
Non, là, ils vont avoir plus de dragons que de dragon rider.
Bah ouais, ils ont 13 dragons au moins.
Donc il va falloir trouver des gens qui ont le sang valyrien nécessaire, le sang valyrien de Dragon Rider nécessaire pour
chevaucher et pour espérer en tout cas chevaucher ces dragons.
Voilà.
Mais
parce
effectivement,
que tout ça, c'est
une
histoire d'ADN en fait.
Oui, n'importe. Enfin, vraiment, il y a des conditions sine qua non à remplir pour a priori pour chevaucher un dragon et avoir les bons gènes en éteint. Et donc, il y a plein de gens qui sont pas des Targaryens comme on l'entend, qui peuvent chevaucher des dragons parce que juste c'est des bâtards. Targaryens, ça existe. On le sait que ça fornique à droite à gauche. On a vu que Aegon, il a violé une servante. On a vu que dans l'endroit à King's Landing où les gamins se battaient, il y avait un petit blondiné qui avait l'air très très blondiné quand même, et que Aegon, il fréquente souvent cet endroit. Donc il y a des gens qui ont du sang Targaryen, qui se baladent, et qui vont peut-être pouvoir chevaucher des dragons. Et après, comme plein de gens l'ont dit dans le chat, on a aussi, que je me trompe pas, Rhaena, la fille de Daemon et Lena, donc une des deux filles, qui est pas Bella, dont le dragon n'a jamais éclos, et qui du coup peut climb un dragon, comme Aemon a climb un dragon par exemple. C'est exactement la même situation, elle a pas eu Vhagar, il lui a pris, peut-être qu'elle aura Vermithor, un gros dragon, on ne sait pas, on verra. Je ne vous spoil pas. On a affirmé qu'il n'y aura pas de point homme-poisson. Il n'y a pas de point.
Non, il y aura un gros point lore, mais c'est
oui,
pas les hommes-poissons.
Il n'y a pas de point lambeau de dragon qui revienne à la vie au fond de l'océan.
C'est pour plus tard.
Les Baratheons sont des bâtards Targaryens à l'origine.
Non.
Ah ouais?
Les Baratheons sont pas des bâtards Targaryens à l'origine. C'est que les Baratheons sont mariés. Ils se sont mariés avec des Targaryens à répétition, en fait. Ils ont beaucoup de sang Targaryens. Ils ont plus de sang Targaryens que les autres. Que les autres House non Targaryens.
Ok, ils ont plus mix avec les Targaryens. D'accord.
Ils ont fuck avec des Targaryens depuis avant Aegon.
Avant que ce
soit
cool.
Depuis avant Aegon.
Ah ouais?
Ouais.
Oh waouh!
Ouais.
On en apprend tous les jours.
Ils ont fourré avec les Targaryens, quoi. Ils s'entendent bien, quoi.
Ok, petit bilan de cette saison avant de passer au point spoiler lore. Alors, tout ça, on vous préviendra. Première question que un ou une viewer m'a posée. C'est quoi pour toi un truc qui est mieux dans House of the Dragon saison 1 que dans Game of Thrones saison 1 et un truc qui est moins bien dans House of the Dragon saison 1 que dans Game of Thrones saison 1?
Un truc qui est mieux.
Moi j'ai mes réponses prêtes si tu veux que je commence pendant que tu réfléchis. Ouais. Pour moi, un truc qui est mieux, c'est le traitement des personnages féminins. C'est assez évident peut-être, mais c'est vraiment quelque chose qui est travaillé avec une finesse qui à la fois montre que le monde a changé en 10 ans, hein, puisque même un peu plus, puisque Game of Thrones a plus de 10 ans, mais aussi qu'il y a des gens différents à la production, qu'il y a plus de femmes, qu'il y a plus d'envie de raconter. En fait, dans le bouquin, c'est pas Fire and Blood, c'est pas une histoire, même La Danse des Dragons, c'est pas une histoire entre Alicent et Rhaenyra. C'est une histoire entre plein de Targaryens qui se tapent dessus et des non-Targaryens qui veulent le trône. Mais là, c'est vraiment devenu beaucoup, en tout cas dans cette saison, l'histoire de Alicent et Rhaenyra, et je trouve que c'est une bonne décision. Il y a plein de scènes, on en a parlé autour de la maternité, autour des violences sexuelles, autour de la sexualité féminine. Il y a des actrices qui ont l'occasion de faire des choses différentes. Il y a beaucoup moins de nudité féminine gratuite. Enfin, c'est quand même, ça raconte des choses plus intéressantes sur les femmes. Et je pense qu'il y avait le potentiel dans Game of Thrones pour raconter certaines histoires, notamment la place de Catelyn Stark, par exemple, que je trouve hyper intéressante. Son rapport avec Jon Snow, qui est la pire tristesse, enfin, le truc où elle s'en veut le plus de sa vie, d'en vouloir à Jon Snow juste parce qu'il est un bâtard, parce qu'il est la preuve que son mari a fauté, alors
c'est
que c'est juste un enfant. Ça, c'est dans le bouquin. Et en plus, on finit par savoir que, Jon Snow, c'est même pas le bâtard de Ned Stark, il a pas trompé sa femme, c'est le fils de sa sœur.
Tellement de fucking honneur, ce connard.
Évidemment.
Quoi.
Quand est-ce qu'un Stark a déjà trahi un serment, ils disent dans cette saison.
C'est pour ça qu'ils disent, mais c'est bizarre qu'il ait eu ce bâtard-là.
Oui, genre, c'est pour ça que personne n'y croit trop. Et c'est, guess what, c'était pas lui, c'était sa sœur, cependant. Donc, quand même une Stark qui, selon les versions, a consenti ou non. Mais moi, je suis dans la team Rhaegar et Lyanna s'aimaient vraiment.
Bien sûr, consenti, c'est elle, la Knight of the...
La maiden.
Non, c'est elle, le chevalier avec les.
Knight of the Laughing
Tree.
Oui, c'est bah oui, moi bien je suis dans cette team là.
Bien sûr que c'est elle, c'est sûr. Et tu sais quand on ce qu'on va le savoir ça.
Quand il y aura.
Quand Winds of George R. R. Martin, à une époque, je sais pas si c'est encore en cours, mais à une époque, ils allaient faire une comédie musicale du tournoi de Heron Hall.
Ma passion.
Avec où Rhaegar drague Lyanna pour la première fois et lui offre la couronne de fleurs.
Là où tout a commencé. Oh là
et
là.
Lui offre la couronne de fleurs au lieu de l'offrir à sa femme.
Je vois, je vois.
Ça, une comédie musicale, t'imagines ?
Bref, j'espère qu'il y aura une partie rappée.
I am in love with a wolf. Ça va être trop bien, quoi. Il va jouer de la harpe et
Régal,
tout.
Il aura une couronne.
Ça va être
et
fabuleux
tout.
S'ils le font, ce sera
certainement...
Retenez
pas trop votre souffle. Hein.
Non,
mais
non,
regardez, le spin-off, il a marché. Peut-être qu'on peut faire un univers étendu avec plein de
s'ils le font,
genres,
je vais à Broadway. Je m'en bats les couilles.
Ah bah, on part.
Direct.
Mais on est influenceurs, on se fera payer l'aller-retour à New York et tout. Tu vois, let's go.
Ah, c'est sûr.
Donc voilà, pour moi, un truc mieux que dans Game of Thrones saison 1. Dans Game of Thrones saison 1, il y avait des personnages féminins qui ont été beaucoup salués pour l'époque et qui sont toujours cool. Hein. Il y a Arya, il y a Sansa, etc. Il y a Daenerys aussi. Mais on était plutôt sur... Voilà, il y avait un peu... Ce truc un peu classico de c'est la meuf garçon manqué qui est...
1.
Oui, saison 1.
On compare saison 1 avec saison 1.
Ouais, je me dis c'est plus fair.
Pas la série avec série.
Non, c'est plus cool parce que Game of Thrones, c'est quand même...
Ouais.
C'était bien la saison 1. Pour le coup, c'était vraiment... Il y a peu de choses à lui reprocher. Et je lui reproche pas son traitement des personnages féminins, mais je trouve que, objectivement, c'est quand même mieux fait et plus intéressant dans House of the Dragon.
Je sais ce que j'aime plus dans House of the Dragon que dans... C'est ce que tu disais. Bon, déjà, t'as raison de dire ce que t'as dit.
Merci.
Mais aussi, tout simplement, c'est l'histoire de Rhaenyra et Alicent.
Oui.
C'est-à-dire que ça, c'est quelque. On peut pas dire qu'est-ce que c'est l'histoire de quoi Game of Thrones saison 1.
Oui, c'est beaucoup
l'histoire
de monde.
C'est l'histoire de Ned Stark. C'est l'histoire de Jon Snow.
C'est l'histoire des Others. Ça commence avec les Others.
Ça commence avec les Others, même si on n'entend plus trop parler pendant le reste de la saison. C'est aussi l'histoire de Dany, qui n'a rien à voir, qui est méga loin dans l'espace.
C'est beaucoup de Tyrion.
C'est beaucoup de Tyrion, qui fait des... Tyrion, à ce niveau-là de l'intrigue, il est quand même en personnage secondaire. Mais ça peut être l'histoire de Bran aussi. C'est genre...
Et qui a une plus belle story que Bran que ce Broken.
Moi, j'adore. Mais, tu vois, le fait de... Beaucoup, beaucoup de personnages qui séparent. Moi, j'aime bien les séries quand il y a un personnage principal. Moi, c'était bien quand tu pouvais, si tu choisissais de te raccrocher à Ned.
Ned Stark.
Ned, on va dire Ned Arya, tu vois.
Ouais.
Si tu choisissais de te raccrocher au Stark, en l'occurrence ces deux Stark-là, tu pouvais suivre ce qui se passait, le reste était
T'avais
annexe.
Une forme de truc
et Dany, tu vois, à la limite Dany, tu vois.
Oui, qui elle vit sa propre aventure.
Exactement.
Mais tu te doutes qu'à un moment ça va se croiser, même si ça prend longtemps.
Mais moi, tu vois, dans les séries, j'ai besoin qu'il y ait une sorte d'unité, qu'il y ait une sorte de personnage que tu suis plus.
Bah là, ouais,
dans
c'est...
Lost, c'était Jack et.
Jack et Kate.
Non, c'était Jack
et
Locke. Les deux points d'ancrage. Moi, j'ai besoin qu'il y ait un point d'ancrage. J'ai besoin qu'il y ait un Don Draper, tu vois. Mmh. J'ai besoin qu'il y ait, dans les séries, j'ai besoin qu'il y ait un point d'ancrage. Même quand il y a un cast avec un milliard de gens, surtout dans une première saison, je trouve ça dur. Alors que t'as pas eu le temps de, en général, les séries font la première saison sur un ou deux personnages et ensuite développent les personnages secondaires à la deuxième saison.
Oui.
Et développent le long de leur truc, là. Tu vois, là, moi, j'avais et je trouve ça et je trouve ça cool et streamliné qu'on soit que sur les Targ.
Yes.
Et qu'on soit avec, les Hightower. Tu vois? Et qu'on soit beaucoup plus focus et qu'il n'y ait pas 30 milliards de personnes. Et les Valyrians, allez.
Mais, oui, et là, même, mais, bon, ça va peut-être changer, mais même là, quand ils introduisent Boros Baratheon, y a tout un pacte, des épousailles entre Aemond et une de ses filles qui sont en train d'être organisé, on voit qu'il a quatre filles et tout. Game of Thrones nous aurait fait un quart d'heure sur c'est qui les Baratheon, comment ils vivent. On aurait vu un peu la personnalité des filles et tout. Et là, c'est vraiment.
C'est bien streamliné.
Le seul intérêt, c'est que ça met Aemond et Luke dans la même pièce. Et c'est eux qui nous intéressent parce que c'est des Targaryens. Du coup, on s'intéresse que à ça, quoi.
On passe plus de temps avec les personnages, même si c'est pas les mêmes acteurs.
Alors, déjà, c'est pas les mêmes acteurs. Et en plus, paradoxalement, comme on saute beaucoup de temps, typiquement les enfants, tu vois. On n'a pas passé, dans un des podcasts que j'écoutais dans Trial by Content, il disait, ça devrait avoir l'impact émotionnel de si Arya Stark elle se faisait buter dans la saison 1, tu vois. Et en vrai, ça l'a pas parce que ce gosse, même s'il est super et que l'acteur il fait tout ce qu'il peut avec ce qu'il a, bah il a eu 4 minutes de, de temps d'écran. Donc on n'a pas ce même attachement, mais on l'a envers Rhaenyra. Et en fait, c'est pas Luke qui a... malheureusement, c'est pas Luke qui est important. On n'en sait pas beaucoup sur lui, à pas parce qu'il vit 14 ans et après il meurt. Mais ce qui est important, c'est ce que ça fait à Rhaenyra. Et ça, pour le coup, on prend le temps de passer du temps avec Rhaenyra et de comprendre à quel point.
Et puis, à la fin, les dernières images de l'épisode mettent bien l'accent là-dessus. Donc voilà. Et ce que j'ai pas aimé, ben, je dirais qu'il y a pas grand-chose, à part, pour moi, les deux épisodes les plus, pour moi, les deux épisodes qui ont fait office de deux derniers, de climax de la série sont le 7 et le 8. Mm-hmm. Et qui sont grandioses.
Donc, c'est
moi.
Les derniers épisodes de Viserys.
Ouais, exactement.
Ouais.
Que je trouve incroyable.
Vivi, ma passion.
Et aussi, ben, je regrette Millie Alcock et je pense que les time jumps, ils ont été brutaux hein, quand même. C'était un peu brutal.
Et ça va qu'on s'y était préparé, et on a préparé comme on a pu les gens qui nous écoutent, parce que c'était un gros pari. Mais
on aurait pu développer un crab feeder, on aurait pu, tu vois, genre 2-3 trucs qui ont été un peu genre zappés. Bah c'est normal, il faut que, en même temps, comme j'ai toujours dit depuis le début de ce podcast, je préfère ça plutôt que Rings of Power qui prend des plombes.
Oui, au moins là on a, et puis
au moins on avance.
En fait, tout ça n'était qu'une longue avancée vers le début de la danse des dragons qui commence maintenant, quoi. C'était une saison limite bonus, en fait. On aurait pu commencer beaucoup plus tard.
Ouais.
Et on a eu ce cadeau de prendre 10 épisodes pour apprendre à connaître ces personnages sur 15 ans. Donc ça va vite.
Ouais, mais pour,
mais au moins
pour
on
que
sait,
l'impact sera encore
ouais,
plus...
Quand ils vont se taper dessus, ils vont se taper dessus, quoi. Vous trouvez pas que la gestion de Christian Cole est mauvaise? Aucune conséquence pour ces meurtres de psychopathes? Bah, on en a un peu parlé quand ils sont arrivés à chaque fois. Pour moi, ça dit des choses aussi, l'impunité de Kristen. Il me semble que dans le livre, alors même si dans le livre, donc quand il tue Geoffrey, c'est en tout cas beaucoup plus facile de faire passer ça pour un truc non volontaire, puisqu'il le blesse pendant un tournoi et Geoffrey il meurt ensuite de ses blessures, donc, et ça prend plusieurs jours. Donc Geoffrey, le mec de Laenor. Et par contre, quand il tue Bisbury, ça a l'air plus accidentel dans la série. Où il, en gros, il le rassoit fortement et il se trouve qu'il lui éclate le crâne contre une balle en marbre, que dans le bouquin où il y a quand même une des hypothèses, c'est qu'il l'a égorgé ou jeté par la fenêtre. Donc, et en fait, il n'y a pas de conséquence parce qu'il est dans la team Alicent, et tant que la team Alicent est au pouvoir, il n'y aura pas de conséquence. Peut-être qu'il y en aura un jour. Si un jour ça chiffre, si un jour s'il est encore là.
Le prix à payer de son. Ben voilà quoi, genre c'est un atout trop important pour qu'au premier écart il le vire, quoi.
Oui, et je pense qu'il y a un truc de Alicent, elle s'entoure aussi d'hommes qu'elle contrôle pas vraiment et dont elle a peur. Enfin, elle a peur de Larys quand il.
Allez, The Mountain, il faisait bien aussi des folies hein, dans.
Et Tywin le laissait faire.
Dans Game of Thrones, et Tywin le laissait faire parce qu'il savait que c'était un atout de ouf.
C'est ça, en fait, c'est un chien enragé, mais tu préfères l'avoir dans ton camp tant que t'as à peu près l'impression de le contrôler. Bah ouais, des fois il fait des dingues, mais. Tu vas faire quoi? Tu vas tuer Kristen Cole ou le faire envoyer au mur? Il y a une chance sur deux qu'il se retourne contre toi, et puis il en sait beaucoup, quoi.
Ouais,
il en sait beaucoup sur Alicent.
Et puis même, de toute manière, c'est une bonne arme.
Oui, t'as envie d'un gars. C'est quand même un excellent combattant. Il a battu Daemon dans l'épisode 1.
T'avais d'autres questions là dans ta question.
Juste un truc que je trouve moins bien que dans Game of Thrones saison 1, moi, c'est l'humour. Mais j'en ai déjà pas mal parlé, je vais pas m'apesantir dessus, mais on rigole quand même pas trop. Parfois, on rigole de façon quasi involontaire à des trucs dramatiques parce que juste Matt Smith fait des super têtes ou des choses comme ça. Mais
il
ça.
Il pourrait garder sa langue.
Ouais, et encore ça, j'étais là. Mais tu vois, j'ai ri à l'œil en saphir de Aemond, mais juste parce que c'est tellement genre absurde que j'étais là, mais quel drama bitch quoi. Mais j'ai besoin d'un Tyrion, j'ai besoin d'un Bronn dans ma vie. Voilà, I miss Bronn. C'est qui pour toi le meilleur perso de cette saison et
Viserys.
C'est qui le meilleur acteur ou la meilleure actrice?
Paddy Considine.
Direct. Bah je pense, je suis d'accord.
Non, je sais pas. Ouais,
moi sur l'acteur j'ai mis Paddy Considine qui joue Viserys. C'est pour moi c'est impossible de dire quelqu'un d'autre quoi. Il joue un mec dans 8 états différents de sa vie.
Ouais, c'est sûr.
Chaque fois, à chaque épisode, on était là, bah ça y est, c'est ciao Viserys.
Putain,
et à chaque fois
il y en a
était
pas de mauvais en même temps.
Encore moins entier qu'à l'épisode d'avant, donc c'était compliqué. Et puis il a ramené, on sait aussi que l'acteur a ramené beaucoup de profondeur au personnage qui était même pas écrite, quoi. C'est quand même
mais vraiment,
le talent.
Millie Alcock défonce.
Oui.
La personne qui joue comment elle s'appelle,
Rhaenyra adulte.
Emma Darcy défonce.
Oui. Olivia Cooke
les
joue
deux Alicent. Les deux Alicent, ouais. Défonce et se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Il y a des side by side là où elles sont dans la même position, les jeunes actrices et les plus âgées qui commencent à tourner beaucoup sur internet. C'est
le casting, la casting, la personne qui a fait le casting de cette série mérite tous les Grammys.
De ouf.
Rhaenys défonce.
Corlys.
Défonce. Corlys.
Et on a quand même, tu vois, alors je sais qu'il y a eu une polémique sur, ils ont mis des acteurs racisés dans Game of Thrones, House of the Dragon, Mais je trouve que ça s'est assez vite endormi, cette polémique de merde, en partie parce que, en fait, ça marche, et ça marche en partie parce que les acteurs sont super et bien dirigés et tout. Mmh. Et espérons que ce soit plus un sujet, que peut-être, si les Velaryon et Corlys en premier lieu peuvent mettre fin à ce débat de merde à jamais, parce que juste, en fait, c'est bien, ça marche. C'est tout. Mmh. Et je pense que tout le monde oublie, enfin, tu vois, c'est juste genre, c'est les Velaryon, quoi. Maintenant, dans la tête de tout le monde, les Velaryon, ça va être ces gars-là, et c'est trop cool. Mais oui, tout le monde déchire.
Mais alors, du coup, là, ce serait une tribu à la peau noire, à Valyria.
C'est possible. Il faut trouver un truc dans le lore où ça peut. On n'a pas de compte d'hommes à la peau sombre qui sont venus s'installer, mais peut-être
moi,
que ces comptes ont été perdus.
Je m'en bats les couilles, honnêtement.
Oui, on s'en fout. Parce que c'est pas le sujet,
100%.
Quoi.
Mais je plisse un peu les yeux, tu vois.
Oui, parce que la couleur des gens est quand même importante, vu que c'est 100% des moyens de décider qu'il y a un bâtard ou pas, visiblement.
Ouais.
Mais effectivement, les perruques des acteurs et actrices étaient pas incroyables par rapport à... Mais je trouve honnêtement que les perruques sont pas incroyables dans House of the Dragon ni dans Game of Thrones. J'enlève mes chaussettes, voilà, je fais une petite Alicent parce que j'ai chaud. Promis, je consens à cette activité, ce n'est pas Tequila Tex qui... Non, ce n'est pas une Larisse énergie qui se passe.
Pas
mais n'hésitez pas à sub pour mes yep, vraiment ça me dérange pas, ça me fait plaisir.
N'hésitez pas à sub dans tous les sens du terme.
Évidemment. Ah, je vais faire bien. Moi, en meilleur perso, j'ai mis Otto Hightower. Parce
non, mais
que...
j'ai pas parlé de Daemon, mais putain, fucking Daemon. Matt Smith est trop fort. C'est peut-être Matt Smith, mais encore...
Parce qu'il dit rien.
Ouais, parce qu'en disant rien, il assure tellement, quoi.
Ouais. Et en même temps, je trouve que c'est plus facile de jouer Daemon. Et je sais pas pour dire qu'il fait pas de taf, hein, mais c'est plus facile de jouer Daemon et d'être ténébreux, qui dit rien et qui ricane dans le
d'accord,
coin, que de jouer Viserys.
Je te donne ce point.
Qui est quand même un gros miskin. Donc j'ai mis Paddy Considine en meilleur acteur, mais j'ai mis Otto en meilleur perso parce que il m'intéresse beaucoup, Otto. Et je trouve que il a une prestance de ouf, donc il s'appelle Rhys Ifans, l'acteur.
Ouais, c'est le mec qui joue le lézard dans...
oui, dans Spider-Man.
Spider-Man avec...
avec Andrew Garfield.
Andrew Garfield, ouais.
Yes, les meilleurs Spider-Man, comme chacun sait. C'est aussi le
tu
père
crois,
de...
Tu trouves
non, ouais, personne pense ça. Ouais. Les meilleurs Spider-Man, bon, c'est tous de Spider-Man.
Ça dit, il est bien, non, il est bien, celui avec Rhys Ifans. Le premier Amazing, il est bien.
Je l'ai vu qu'une fois, et ça m'a pas donné envie de voir les autres. Mais je sais qu'ils l'ont retconné, là, dans le dernier Spider-Man. Ils ont réhabilité un petit peu cette version du personnage et de ses antagonistes. Mais je trouve que Otto, il m'intéresse de ouf, alors que dans le bouquin, je m'en foutais vraiment de lui. Genre, j'ai dû googler 1000 fois comment il finit, parce que j'étais là, j'arrive pas à m'en souvenir tellement, je m'en fous, j'arrive pas à rentrer dans... Je me passionne pour les mains du roi, je me passionne pour des Tywin et tout, pour des grands stratèges politiques, mais lui, dans le bouquin, il m'a rien fait. Alors que là, l'acteur, je pense que bah, dès la scène où il envoie Alicent consoler le roi qui est en deuil, j'étais là, oula. Et en fait, dès qu'il ouvre la... Enfin, il a une façon de parler où on dirait tout le temps qu'il fait un discours, tu vois, il a un côté très Mélenchon. Et là, quand il est sur le pont et qu'il dit à Rhaenyra, Aegon, il a le nom du conquérant, il a la couronne du conquérant, il a l'épée du conquérant et
tout le monde l'a vu,
là...
donc t'as pas le choix.
Ouais, et même moi, j'étais là, franchement, il a raison. Enfin, Abdi, que tu vas jamais gagner, tu vois, je sais pas. Je trouve qu'il a un charisme de ma boule. Et alors, c'est pas Tywin, mais c'est peut-être ce qui s'en rapproche pour l'instant le plus. Donc, comme j'aimais beaucoup Tywin, j'ai dit Otto, j'ai hâte de le voir dans la saison 2. Et je pense que lui, il va être fier de ce que Aemon vient de faire, tu vois. Comme il était fier quand Alicent, elle a planté Rhaenyra, il était là, c'est bien ma fille.
C'est bien. Ouais, c'est il n'a pas du tout engueulé.
Non, non, elle s'en voulait, lui, ça va.
Pose-moi une question, et ensuite, je vais faire un petit tour.
Ça marche. C'est quoi le moment qui t'a le plus marqué? Le moment, la scène qui te reste en tête?
Viserys qui monte sur le trône.
Putain, on n'a que les mêmes, évidemment. La longue marche de
la
Viserys
marche
avec
de
le
Viserys.
Masque en or et tout.
I will sit on the Iron Throne today.
Oh là là.
Il fait tomber la couronne, on lui ramasse.
J'avais pas noté que c'était une impro, ça. En fait, c'était pas scripté.
Ouais,
la couronne
ça,
qui tombe et Daemon
ça,
qui lui remet. C'est la couronne
moi,
qui
là,
est tombée, et voilà.
Levé,
et Matt Smith qui était là, je vais faire
je
ça.
Je l'ai dit dans le récap de l'épisode, mais je me suis levé de ma chaise. Ça m'a rappelé mon grand-père, ça m'a rappelé moi-même ma vie, tu vois.
Oui. Non, mais c'est
aussi bien à tel point que demain, je vous l'annonce. Et je vous l'annonce en.
Vous avez une exclue là de ouf.
Demain, je mixe au Rex et je m'habille pour Halloween en Viserys Targaryen.
Version masque en or.
Ouais.
Pas version Viserys épisode 1 quand il croyait encore que ça.
Version la longue marche quoi.
Yeah, ça va être trop bien. Et comme en plus malheureusement t'as mal au pied, alors c'est pousser le déguisement un peu loin.
Ouais, c'est sûr.
Mais du coup c'est in character. Non bah oui, j'ai noté ça aussi. C'est le moment où je pense que j'ai le plus retenu mon souffle, j'étais émue, j'ai eu les larmes aux yeux. Je trouve que l'amour de Viserys pour Rhaenyra, il est trop beau. Enfin, j'adore mon papa et mon papa est vieilli comme tous les papas et du coup, je suis là, ah, non, c'est compliqué. Enfin, ça m'a vraiment généré plein d'émotions et dans une série où il y a des dragons géants et des enfants qui se font croquer et des gens qui se mettent des saphirs à la place des yeux, en fait, c'est juste un mec qui marche vers une chaise quoi, qui compte parce que c'est enfin qui reste parce que c'est ça qui compte émotionnellement.
Et en deuxième place, le twist et l'espèce de mascarade où ils nous font croire que Rhaenyra est en train de devenir une grosse bitch et va tuer son mari.
Mm-hmm, la fausse mort de Lennor.
Ah, la fausse mort de Lennor. Pour qu'ensuite il se... Tu sais que j'ai dû l'expliquer à quelqu'un qui avait pas compris que c'était Lennor rasé sur le bateau, quoi.
Ah, et il suffit d'un changement de coupe de cheveux. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas physionomistes, je le suis peu. Ouais, j'entends qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué, mais là, c'est pas un défaut d'écriture, pour le coup.
Non, c'est sûr.
On peut pas s'adapter à tout.
Et franchement, ce truc-là, ça aussi, ça m'a fait c'est les deux moments de la saison qui m'ont fait décoller de mon siège et faire, oh là 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 là. Et tout le monde dans l'appartement me dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Il marche vers le siège, c'est
Et là, j'ai vraiment fait des bruits, je me suis levé, j'ai fait le tour du truc, tout comme je m'apprête à faire maintenant.
Très bien. Tequila Tex fait donc une petite pause. Je vais remonter un peu le chat, répondre à vos questions. Et peut-être que moi-même, je ferai une mini pause et je vous mettrai l'écran d'attente afin de m'hydrater. Voilà, comme vous le sachez. Qu'est-ce que vous racontez? Lennor trop bien, pas un choc au niveau de Ned Stark. Non, quand même, mais pas mal. Pas mal. Et je pense que pour moi, en tant que book reader, n'est-ce pas, personne qui a lu le livre, c'est vraiment le moment où je me suis dit, ah ok, donc moi aussi je peux me faire surprendre et avoir quoi, qu'il y a un truc qui a fini par arriver dans Game of Thrones où il y a des choses qui sont arrivées dans la série qui sont pas arrivées dans les livres et des choses qui ne sont pas arrivées dans la série que j'attendais parce que j'avais lu les livres. Dans House of the Dragon, je savais qu'il y avait toute une part d'interprétation dans le livre et de narrateur qui n'est pas fiable, et donc il y avait des choses où j'ai et des nouvelles choses comme tout ce truc de prophétie Targaryen qui est quand même hyper important et qui est ramené dans tous les épisodes quasiment et qui n'existe pas dans le livre. Mais je m'attendais pas à un truc aussi important que il y a un perso qui a un rôle capital puisque c'est le mari de la future reine quand même pendant un moment, hein, et officiellement le père de 3 de ses enfants qui en fait n'est pas mort quoi. J'étais là ok, donc en fait même moi je suis pas, enfin je suis sûre de rien quoi. Après je me protège toujours des spoilers par habitude, mais je m'attendais pas forcément à un tel retournement de situation. Quel perso sous-exploité vous voulez voir plus développé en saison 2? Je vais essayer de le noter. Non, je peux pas le noter. J'en ai pas la. Je vais essayer de m'en rappeler. Mais on verra, ça va peut-être être un peu spoiler, donc on en parlera dans la suite. Ouais, vous êtes plusieurs à dire, je m'attendais à un truc plus fou pour l'épisode 10. Bah, c'est vrai qu'il faut taper fort pour la fin. Après, c'est quand même un événement majeur hein, qui se passe et visuellement, c'est hyper frappant. On parlait de la scène de Vhagar qui se dresse derrière les murailles de Storm's End, mais il y a aussi la scène où l'ombre de Vhagar plane au-dessus du tout petit Arrax dans le ciel, et c'est vraiment des scènes, des trucs de films d'horreur qui, je pense, c'est des visuels qui me resteront quand même en tête longtemps, mais tout comme j'oublierai pas Daenerys qui sort de son fire pit avec ses 3 bébés dragons enroulés, quoi. Et alors, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que Ned Stark qui se fait buter, c'était l'épisode 9. Et la fin, le cliffhanger de Game of Thrones saison 1, c'est Daenerys, elle a des bébés dragons. Ce qui est à la fois hyper important, et en même temps, à ce moment-là, on sait pas, enfin, on sait que c'est important, mais je veux dire, c'est pas un enjeu. Daenerys, elle est vraiment à part du reste de l'aventure, quoi. Donc c'est un cliffhanger qui marche que pour un seul personnage sur les 15 ou 20 que Game of Thrones saison 1 nous a présenté. Donc je me souviens pas si à l'époque, les gens qui avaient pas lu les livres, ils se rendaient compte à quel point, ouais, c'est ma boule qu'elle est des dragons, quoi. C'est vraiment, très important ce qui se passe, quoi. Ouais, Ned, c'était épisode 9. Et là, du coup, en épisode 9, bah, on a quand même cette scène un peu naze, je trouve, avec Rhaenys et le couronnement de Aegon. Mais paradoxalement, c'est l'épisode que j'ai trouvé le plus faible, moi, le 9. Parce que Alors j'ai bien aimé qu'il se passe que, mais j'en avais parlé, hein, mais j'ai bien aimé qu'il se passe que à King's Landing et que avec les Verts. Mais j'étais déçue que ça soit beaucoup deux duos cherchent Aegon et du coup on voit pas trop Aegon et qui raccourcissent le mauvais traitement de Feu Viserys et de sa dépouille. Et alors j'ai bien aimé le couronnement de Aegon, mais j'ai pas trop aimé l'arrivée de Rhaenys en gare de la Ciotat. Ouais, les émotions de la saison 1 de Game of Thrones. C'est ça, c'est en fait je pense que peut-être on est intéressé mais je sais pas si on est autant impliqué émotionnellement dans House of the Dragon maintenant que dans Game of Thrones saison 1 parce que c'est des persos qui sont un peu moins humains aussi, enfin ils ont tout ce truc de magie, de dragon, tu vois, on n'a pas une Arya Stark qui est juste là en mode moi j'ai envie de pas être une lady et de me battre à l'épée et on n'a pas un Bran qui aime juste grimper aux arbres et tout, on est quand même sur des gens qui sont intenses à tous les niveaux. Qu'on est peut-être un peu moins attaché émotionnellement pour l'instant. On est quand même pas mal.
Moi, je regrette un truc aussi. Mm-hmm. C'est un cliffhanger de ouf au niveau des dragons qui éclosent.
Oui.
Tu vois, je regrette. J'aurais aimé qu'il y ait un truc qui me fasse dire. Ça, c'était pas obligatoirement de la magie. C'était pas obligatoirement Alice Rivers. Hein. C'était juste genre, j'avais besoin. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir un caméo de ouf. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir un truc où tu te dis...
Elle est où, Mélisandre ?
Oh là là, mon Dieu, on peut pas attendre. Il faut qu'elle vienne demain, la saison 2.
Bah pour le coup, si Daemon s'était lié avec Vermithor et que d'un coup, Daemon, il a deux dragons, tu vois, je pense qu'il y aurait eu un côté, ça change tellement tout, genre ça va à l'encontre de ce qu'on croyait savoir. Là, j'aurais été là, ok, donnez-moi la suite parce que...
Ouais, mais c'est pas le choc de il y a des dragons dans cette série.
Oui.
Tu vois ?
Mais je sais pas à quel point ça avait. Je pense que les gens se souviennent plus de Ned Stark qui meurt.
Si nous avait montré un White Walker.
Ouais.
Tu vois, si nous avait montré. Tu vois ce que je veux dire, ça va être ça.
On parlera dans la partie 2 de ce qu'ils auraient pu nous montrer, qui aurait
genre
pu nous
si
mettre.
Si nous avait montré un truc.
La tête
genre,
à l'envers.
Hey, on vous met la tête à l'envers là.
Ouais.
Et là, vous pouvez pas attendre.
Là, et comme dit le rôdeur, rappelons qu'on va attendre probablement jusqu'en 2024. Donc
non,
quand même attendre.
Je viens de voir un truc qui dit. Je viens de voir le showrunner qui dit. On commence à tourner maintenant.
Oh.
Et il se peut très bien que ça arrive avant la fin de 2023.
Oh là là, ce serait un beau cadeau de Noël, hein, franchement. Comme ça cartonne, je pense qu'ils veulent aussi battre le fer tant qu'il est chaud. Et je ne vais pas les blâmer. N'hésitez pas à revenir à Zap. Très bonne nouvelle en effet.
Exactement. Et je pense qu'ils l'ont déjà fait.
C'est-à-dire, ils l'ont déjà fait.
Pour Game of Thrones, ils ont déjà
ils ont déjà accéléré des trucs et modifié des trucs de tournage. Tout à fait.
Absolument.
Et rappelons qu'il y aura un Fire and Blood 2. Il y aura une suite au bouquin, normalement, qui est prévue aussi, puisque le bouquin ne s'arrête pas. C'est pas genre tous les Targaryens jusqu'à Robert Baratheon. Il y a un trou encore. Enfin, il y a beaucoup d'autres histoires à raconter.
Et rappelons aussi que Duncan Egg, ça peut rentrer.
Qui est donc une série de novellas qui est des préquels à Game of Thrones.
Ça
mais qui se passe à Westeros, aussi... avec des chevaliers et tout, machin.
Bah, ça parle d'un Targaryen.
Voilà.
Duncan Egg.
Entre autres.
Et donc, si les rumeurs comme quoi House of the Dragon sont une série d'anthologie sont vraies, ils peuvent très bien faire, et ça on l'a déjà dit, ils peuvent très bien faire 3 saisons sur la Dance of Dragons, une saison sur Duncan Egg, une saison prequel sur
Sea Snake.
Une saison prequel sur Sea Snake, ce sera autre chose.
Ok, tu le comptes pas.
Non,
ok, toi t'es sur
ça.
Les Targaryens là.
Ouais.
Ok.
Une saison Aegon's Conquest.
Mm-hmm.
Une saison pourquoi pas une saison Robert Rebellion.
Moi j'aimerais trop le Trident, Rhaegar.
Ça ils l'ont déjà trop raconté.
Ouais mais on l'a pas vu tu vois. Ouais, et je pense qu'il y a ce truc de c'est tout près, mais une mini-série tu vois. Genre 6 épisodes en mode The Terror, la bagarre au Trident, jeune Robert Baratheon avec
saison,
son marteau de guerre
saison,
et tout. Ouais voilà.
Ouais.
Une mini-série.
Non mais moi j'aimerais le Doom.
Bah oui le Doom. Mais le Doom si on sait, on sait quoi. À partir du moment où il tranche
Doom,
et il donne une version, c'est genre ok. C'est une grosse respect, le fléau de Valyria, ce qui a amené à la chute de Valyria. On sait toujours pas trop exactement ce que c'était. Il y a des théories qui circulent. Ben, le truc, c'est qu'au moment où tu confirmes ce que c'est un gros enjeu, quoi. Parce que c'est un mystère qui sous-tend énormément de trucs dans l'univers.
Il y a des théories qui disent qu'il y a des faceless men dans cette histoire.
Tout à fait. Ok, on va passer au point spoiler et donc au point lore. Avant ça, dernière question. Il y a une viewer qui m'a envoyé un message pour me dire j'arrive toujours pas à m'y mettre. Est-ce que vous auriez trois adjectifs pour me convaincre? Est-ce que t'as trois adjectifs sur House of the Dragon qui convaincraient? Moi, j'ai noté nuancé, dramatique, mais à l'anglaise, parce que dramatic, c'est vraiment des dramatic bitch, et provocant, parce que je trouve que c'est intéressant que ça t'oblige tout le temps à revoir tes avis sur les persos, tu vois. Ce truc de Daemon qui étrangle Rhaenyra et plein de gens qui étaient choqués en mode, il ferait jamais ça et tout, je suis là, c'est cool, une série qui te provoque ce genre de réflexion, tu vois, c'est cool.
Il vient de tuer son ex.
Oui, il a vraiment tué son ex il y a moins de 10 ans. Et il avait pas trop l'air de s'en vouloir, mais bon. Est-ce que t'as des adjectifs sur House of the Dragon pour convaincre quelqu'un?
Méga bien, hyper bien, génialement bien.
Top.
Non, genre juste extrêmement bien écrit.
Oui, c'est vrai que c'est
genre
bien
écrit. Genre fabuleusement, langage fleuri. Il y a des lignes incroyables. Des J.K. Jesseris qui parlent avec Aegon lors du repas. Des trucs...
des dialogues à tiroir et tout.
Ouais.
Ne parle pas comme ça devant My Betrothed. Oui, ils utilisent un langage plus soutenu et plus passé que dans Game of Thrones. Et c'est aussi le cas dans les bouquins. Il y a des mots...
méga beau.
Et même dans les traductions, il y a des mots qui sont dans Fire and Blood qui sont pas dans Game of Thrones parce que du coup, ils parlent moins ancien dans
et
Game of Thrones.
Et même genre... Now they shall see you for who you really are. Tu vois, genre,
ah oui, il y a des punchlines.
Des punchlines de ouf, c'est trop
Let's
bien
Let's end
foutu.
This mummer's farce. Et il y a la voix de Matt Smith. Matt Smith, vraiment, quand je montais le dernier podcast, là, j'ai mis la chanson en Valérien et le conte des dragons qu'il fait. Et vraiment, j'étais là en faisant le montage en mode, mais comment il fait ça? Genre, il articule pas, il parle tout bas et c'est du velours et en même temps, c'est terrifiant.
C'est trop bien écrit, c'est trop bien joué.
Il y a un travail qui est fait sur les décors, le world building, la création des costumes et tout qui est incroyable.
Est-ce que vous aimez les séries ou pas? Juste, est-ce que vous aimez
les séries?
Vous aimez
les bonnes histoires? Si oui, regardez.
Si vous aimez les séries, regardez House of the Dragon, c'est la meilleure.
Tout à fait.
Je suis navré. Si vous aimez Succession, il n'y a aucune raison de ne pas aimer House of the Dragon.
Si vous aimez The Crown, il n'y a pas beaucoup de raisons de ne pas aimer House of the Dragon.
C'est clair.
Et si vous aimez Game of Thrones, en vrai, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas aimer House of the Dragon.
C'est trop bien fait, trop bien écrit et la concurrence à côté est naze.
Oui, en série de fantasy, nonobstant Rings of Power, même
tout,
les trucs, je sais pas, il y en a eu pas mal ces derniers temps,
Witcher,
il y a eu Shadow and Bone, il y a eu Witcher. C'est pas comparable au niveau d'exigence qu'on met là-dessus, quoi.
La précision, le world building, la continuité, le fait que,
la nerderie, en fait. C'est des gros nerds, quoi. Il y a quelqu'un qui nous a demandé sur Twitter, est-ce que vous pensez que les scénaristes sont autant des nerds que vous? Et je suis là, ils sont pires. Vraiment, Ryan Condal, qui est un des showrunners.
Ouais, il a l'air
un peu moins Sapochnik, mais Ryan Condal, à qui on doit des très beaux épisodes de Game of Thrones. Notamment, il me semble, la scène où Jaime adoube Brienne et la fait chevalier dans la dernière saison, qui est mon épisode préféré de la dernière saison. Bon, la barre est un peu basse, mais quand même. Lui, c'est un maxi nerd, quoi. Vraiment, ils ont rajouté toute une prophétie dans cette série. C'est pas pour le fun, c'est parce que ils vont relier ça d'une façon ou d'une autre à des trucs de gros nerds de l'univers de Game of Thrones. Et on sera là pour ça, mais aussi pour les dragons et pour le fétichisme des pieds et pour la politique, quand même. Et pour Rhaenyra.
Pyram, Adi, ont-ils prévu de faire d'autres spin-offs?
Toujours.
En développement, il y a toujours cette série animée sur Yeti.
Oui, on espère.
Qui est une région équivalente à la Chine, dans une des régions à l'est, l'extrême est des sauces. Il y a aussi Jon Snow, effectivement, peut-être une suite avec Jon Snow.
Peut-être.
Peut-être à une époque il y avait en développement, je sais pas si c'est toujours le cas, un truc sur. Sur King's Landing, là,
le Flibottom,
ouais,
sur
Flibottom.
Les bas-fonds de Culpussier, les bas-fonds de King's Landing, ce qui te chauffait pas trop, parce que t'aimes pas les hommes qui ont des cheveux longs et des man-buns.
Ouais, les man-buns, ça me saoule, puis ils mangent du caca, c'est relou, quoi. Ils sont en train de bouffer de la boue. C'est vraiment genre désenchanté de Mylène Farmer, la série.
Je préférais partir à Yin et savoir ce qui s'est passé
là-bas.
Tu vois. Effectivement, le spin-off sur Corlys, a priori, est toujours en cours, puisque George R. R. Martin travaille actuellement dessus.
Il faillit être annulé, puis finalement, il est encore là.
Perso marche bien, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de savoir c'est quoi sa vie.
À mon avis, ce sera soit Corlys, soit Nymeria.
Oui, parce que sinon, ça a fait deux séries avec des voyages marins.
Des voyages marins sur des bateaux.
Bah, du coup, je pense que ça sera Corlys parce qu'on le connaît, quoi.
Et on l'aime trop.
Oui, on l'aime trop, il est trop cool. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer maintenant dans les bouquins? On peut peut-être finir là-dessus avant de passer au... Donc, et après on se dira au revoir pour ceux qui partent, et après on passera au point spoiler, spoiler. Mm-hmm. Est-ce que tu conseillerais aux gens de se lancer dans les bouquins, ou maintenant qu'ils ont commencé l'aventure série, de
rester
sur la série?
Je veux juste répondre à la personne qui dit j'aurais tellement voulu qu'ils aillent au bout du spin-off arrêté qui est Blood Moon. Je pense qu'ils auraient fait nimp et qu'ils auraient fait un truc.
Blood Moon, c'est la Long Night ou c'est autre chose?
Ouais, c'était la Long Night.
C'est celui avec Naomi Watts. Oui.
Ouais. Mais okay. Je pense qu'ils auraient genre retcon un milliard de que trucs, ça aurait été très éloigné du bouquin et que ça aurait piss off tout le monde et que ça aurait énervé les gens et qu'ils ont... En fait, ça
les
sentait...
Qui font des vidéos YouTube de 2h47 quatre lignes.
Ça sentait le truc pour satisfaire le fan de la série Game of Thrones plutôt que pour satisfaire le fan du lore. Parce que...
Oui.
Du coup...
Parce que c'est trop compliqué, je pense que si tu suis le lore, ça fait une série qui est quand même un peu exigeante et un peu lynchienne, tu vois. Enfin,
ouais.
Un peu David Lynch, pas très accessible. Et que si les gens s'attendaient à Game of Thrones 2, ça aurait déçu beaucoup de monde, quoi. C'est comme si Game of Thrones 2, c'était un film expérimental, enfin une série expérimentale avec un peu Hereditary dans l'idée. Enfin, vous voyez l'idée, quoi.
Moi, je pense... Moi, c'est pas à ça que je pense. Moi, je pense que Blood Moon, ils auraient essayé de faire un truc un petit peu genre l'histoire se répète, en fait, tu vois.
Ah, ok.
Et je pense que ça aurait pas fonctionné.
Ok, ok. Les voyages de Corlys manquent un peu d'enjeux politiques pour faire un truc aussi passionnant que Game of Thrones ou House of the Dragon. À voir, ils peuvent le rajouter aussi. Il peut peut-être jouer un rôle dans les différents endroits où il passe. Et puis, il crée aussi la fortune de sa propre famille. Donc, au final, il se passe des choses.
Les voyages de Corlys, il faut pas le prendre comme un... Justement, les voyages de Corlys, il faut qu'il joue en même temps que House of the Dragon saison 3 à 4.
Faudrait qu'il diffuse en alternance.
En fait,
pour qu'il y ait
la dose
de
politique. Pas les voyages de Corlys pour la politique. Tu regardes les voyages de Corlys comme tu regardes Star Trek.
Oui, pour l'aventure dans des mondes différents avec des
l'aventure dans des mondes différents, et Corlys débarque dans une ville où il y a des règles qui sont pas les mêmes que les siennes et il doit s'y adapter et il finit par repartir avec des richesses. Tu vois ce que je veux dire?
Et pour le lore un peu quand même.
Mais bien sûr pour le lore, mais tu vois ce que je veux dire, genre les intrigues, ça va être genre l'Enterprise débarque sur une planète où tout le monde a des oreilles en forme de lapin. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, oh, wow, les problèmes politiques que ça engage.
C'est un voyage, quoi.
Tu vois ce que je... Non, mais je dis, j'arrive pas à trouver de... Mais tu vois?
Carrément.
Un peu Rick and Morty...
C'est un truc épisodique, quoi. T'imagines vraiment une aventure, un épisode.
Ils arrivent dans une ville, par exemple, où c'est justement matriarcal de ouf, tu vois, où c'est genre que des meufs qui dirigent le truc. Il y a une île comme ça dans Game of Thrones, un peu Amazon, machin. Alors, comment on se fait pour ce truc-là? Où ils arrivent sur une île où les mœurs sont comme ci, comme ça, ils doivent s'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Faut prendre Star Trek, c'est Star Trek.
Et du coup, il y aura des épisodes qui seront plus comiques, des épisodes plus engagés, des épisodes quasi horreur, parce qu'il y a aussi des endroit hyper creepy dans ce monde-là.
Exactement.
Donc moi, j'espère que...
Et il faut que ce soit une saison, 9 épisodes, 9 voyages, Bastapopoulos. Et chaque voyage...
Bastapopoulos.
Et chaque voyage est dans un endroit différent et on se prend une aventure d'une heure dans cet endroit et à la fin, Corlys est changé par cet endroit. Et voilà, c'est tout. Et pas besoin d'en faire plus.
Grave.
C'est tout ce qu'on veut.
Écoutez, n'hésitez pas à nous faire financer des projets chez HBO. Ok, on va se dire au revoir pour celles et ceux qui nous quittent ici, puisqu'on va bientôt entamer le point spoiler où on va spoiler ce qui va se passer. Alors j'ai vu quelqu'un qui demandait à quel point vous allez spoiler. C'est difficile à dire, mais on va au moins spoiler des très gros éléments de la saison 2, ça c'est sûr. Et après, on a lu les livres, donc écoutez, tout peut arriver. On peut vous spoiler. Peut-être j'ai pas prévu de vous parler de la fin, de la toute fin de la Danse des Dragons, mais que ça va venir dans la discussion. Moi, je vous conseille.
Oui, oui, Mintara, ça va ressembler à Doctor Who dans mes rêves.
Voilà.
Le spin-off sur Corlys, il va ressembler à Doctor Who.
Tout à fait.
Je te coupe plus, excuse-moi.
Pas de souci.
On voit des choses sur le chat.
Donc voilà, on va spoiler. C'est le concept. Mais avant ça, merci beaucoup, Tequila Tex, de m'avoir accompagné pendant 10 épisodes de House of the Dragon. Ah oui, il faut que je branche mon ordi, bien vu. Sinon, on aura l'air con. J'arrive.
Écoute, tout le plaisir a été pour moi, surtout. Un plaisir culinaire et aussi, parce que ce que vous savez pas, c'est que Mimi elle me fait à bouffer à chaque fois et que c'est à chaque fois trop bon.
Cette anecdote est vraie.
Et que là maintenant j'ai compris que le poulet c'était un truc qu'elle maîtrisait de malade. Et
la recette est sur mon Patreon, abonnez-vous, je vous mets le lien dans le chat.
Vraiment très très bon le poulet, très citronné, très taginifiant on va dire.
Oui.
Et franchement c'est la balle. Et moi, je ramène à chaque fois du très bon fromage
oui.
de nos amis du Frescolet qu'on salue. Voilà. Mais merci en tout cas, merci parce que moi, j'aurais pas pu le faire tout seul ce podcast. Moi, j'étais fatigué par prendre mon téléphone et faire des Facebook Live.
Et moi, j'aurais été triste de le faire sans toi.
De Take of Thrones,
ça aurait été moins.
Et puis, genre, j'aime pas avoir des devoirs à faire à la maison.
Oui, là, je prends les notes. Et toi, t'arrives.
Et là, c'est Mimi qui bosse en fait. Et Mimi, elle bosse et elle dit des trucs et après, elle me dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, j'ai plus qu'à me foutre les pieds sur la table et à dire n'importe quoi qui me passe par la tête. Et créer des chansons
sur
tous les sujets qui est quelque chose qui me demande absolument zéro effort. tant que ce deal est respecté, tout va bien.
Bah écoute, ce fut un plaisir. Merci à vous, si vous partez maintenant, de nous avoir suivis dans nos délires. Restez abonnés à la fois à la chaîne et au podcast, si vous êtes abonnés au podcast, puisque je vais continuer à publier des trucs dessus. Je vous enverrai des petits sondages sur Instagram notamment et sur Patreon, et puis on en parlera en live sur Twitch, pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait, de quelle série on parle et qu'est-ce qu'on se raconte, sachant qu'il y a à la fois The Crown qui commence très bientôt, et j'aime beaucoup The Crown, mais aussi, ça m'a donné un peu envie de replonger dans Game of Thrones cette connerie. Et je me dis, il y a des récaps rigolos de plein de saisons de Game of Thrones que j'ai pas encore faites, et des débriefs que j'ai pas fait, ou alors est-ce qu'on ferait pas des podcasts sur les théories les plus deep du monde de Westeros, enfin bref. On s'en reparle.
C'est pas toutes les semaines, peut-être.
Non,
que
pas
tu
toutes
peux
les semaines, mais tu, ah ben avec plaisir, tu vois, je me suis dit, mais je t'invite au restaurant, et on en parle bientôt. Mais donc, restez abonnés, merci d'avoir été avec nous. T'es qui? Où est-ce que les gens peuvent venir te voir en Viserys, par exemple, demain
soir,
ou ailleurs dans la vie?
Demain soir, en back-to-back avec mon ami Greg. Gardez votre 10 décembre aussi. Au crayon à papier, dans votre.
Vous mettez un petit teki avec un cœur sur le i.
Voilà.
Et puis, ce sera confirmé
sur
Instagram.
Il y aura des bonnes. Ouais, sur Instagram.
Teki latex. Eh bien, écoutez. Non, Manu, alors t'arrives, c'est pas la fin, mais bonjour. C'est le moment où on va faire une pause et passer à la partie spoiler. Donc, t'as raté toute la partie béotien. Et je sais que tu n'as pas lu les livres, donc je pense que tu ne vas pas rester. Sorry. On va faire une petite pause.
Et on va parler de lore aussi.
Oui. Le lore, ça va être bien. Le spoil, ça va être très bien aussi.
On va spoiler. On va vous traiter comme des adultes.
Oui. Vous pouvez choisir.
Qui sont dotés de choix et qui peuvent choisir d'éteindre leur Twitch, leur Nintendo Switch maintenant.
Tout à fait.
Et s'ils la laissent allumer, ils le font en connaissance de cause.
Vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Juste avant, quand même.
Ça va spoiler et ça va parler des choses, de livres qui sont déjà dans le commerce.
Que vous pouvez acheter et dévorer.
Est-ce que ce sont vraiment des
spoils? Et moi, je vous conseille de lire le livre. Je trouve que l'expérience, lire le livre, regarder la série est toujours trop bien. Alors que regarder la série, lire le livre, enfin, dans l'autre sens, parfois, ça m'arrive d'être déçu. Mais dans le sens, j'ai fait l'adaptation dans ma tête et ensuite, je regarde comment ils font. Je ne me dis jamais, oh, j'aurais bien aimé pas avoir lu le livre pour pas savoir ce qui va se passer. Au contraire, j'aime trop savoir ce qui va se passer et me dire, mais comment on va y arriver? À quoi ça va ressembler? Oh non, en fait, Aemon, c'était pas volontaire. S'il a tué Luke, mais en fait, si, un peu. C'est trop bien. C'est hyper cool. Et après, je vous explique des trucs. Dernière info avant de passer à la pause et donc à la partie spoiler, il y aura un dernier live
lors de maison.
Un dernier gros live House of the Dragon pour moi qui est mercredi prochain, le 2 novembre, et ce sera pas sur ma chaîne, ce sera sur la chaîne de la Garde de Nuit.
Est-ce que tu peux les emmerder avec le Great Empire of the Dawn, s'il te
bien
plaît?
Sûr, bien sûr, j'ai le RPZ.
Est-ce que tu peux les emmerder avec tout ça, s'il te plaît?
Mais oui, j'essaierai.
Est-ce que tu peux parler de Dracomorph?
Oui, j'en suis. Je l'ai lu hier dans l'aéroport. La théorie des dracomorphes.
Est-ce que tu peux leur mettre
le planning.
Hashtag dracomorphe dans la gueule.
Dans le chat. Ok, donc, le 2 novembre à 20h sur la chaîne Twitch de la Garde de Nuit, qui sont les experts francophones de Westeros en général, on va dire de Planetos, je serai avec Maître Thibault et la Citadelle, deux chaînes YouTube spécialisées dans ces univers-là, pour débriefer House of the Dragon. Voilà, donc on se retrouve mercredi. Là, on va nulle part, on va juste faire une petite pause car j'ai très chaud et je vais m'aérer. Et ensuite, on reviendra pour spoiler la suite. Est-ce que je te laisse parler?
Aerys Targaryen.
Aerys Targaryen, la plus intéressante. Est-ce que je mets en pause ou est-ce que tu veux parler avec les gens tant que t'es là?
Allez, allez, vas-y.
Tu restes avec les gens?
Allez.
Sinon, tu cliques sur pause et ça mettra en pause.
Non, non.
À tout de suite, la mif.
Dracomorph. Mais du coup, vous êtes content de la série, même si ça respecte pas 100% le livre? Oui, quand même. Moi, je suis... En vrai, je lis surtout les Wikipédia plutôt que les bouquins, donc... J'aime pas avoir des devoirs à faire, j'aime pas apprendre les... J'ai arrêté le rap parce que j'en avais marre d'apprendre les textes. J'aime pas trop lire les livres. Je préfère regarder des choses qui rentrent dans mon cerveau. Je suis extrêmement flemmard. Donc je préfère regarder les choses qui rentrent dans mon cerveau immédiatement. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi de vivre ma vie. Et un live sur les théories Game of Thrones, ouais, on va vous donner un bon petit avant-goût de ça, là, maintenant. J'ai l'impression que la vie générale, c'est que les adaptations par rapport aux livres sont utiles comparées à d'autres séries. C'est vrai. Mais là, il y a ce côté vraiment, genre, les bouquins, ce sont des on-dit, et l'adaptation série tranche, en fait. Voilà. Exactement, des récits rapportés, comme dit King Julianus. Non, mais en fait, ne prenez pas comme exemple, lisez les livres. C'est vrai que c'est bien, ils sont bien. Si ma flemme n'était pas aussi développée et que j'allais chez Optique 2000 pour m'acheter des lunettes de vue et pour régler ce problème-là, peut-être que je lirais plus volontiers et peut-être que je les dévorerais, les bouquins. J'ai quand même lu The World of Ice and Fire de A à Z et j'ai trop kiffé. Et ça défonce. Donc oui, je peux pas être le connard qui décourage les gens de lire les bouquins. Lisez les bouquins. Ou alors au moins les audiobooks. Déjà ? C'est rapide. Tu veux faire une tu veux marquer une pause un peu plus ? D'accord.
Internet, rebonsoir. Ok. Non, c'est bon, au montage, écoute, je pourrais couper là. Mais du coup, on est parti, on est full spoiler de qu'est-ce qui va se passer dans la suite de House of Dragon. Et on va aussi parler de lore, parce qu'on adore parler de lore et de tout ce qui peut sous-tendre toutes les légendes et le passé oublié qui peut
lore
sous-tendre...
Lore Manodou.
Voilà, Lore Manodou herself. Qu'est-ce que... Voilà, c'est... Question très large. Qu'est-ce que t'attends dans la suite ? C'est quoi que t'as le plus que t'as à devoir qu'est-ce que tu vois pour la saison 2
bah,
et
tu m'as mis
au-delà.
Alice Rivers dans la tête, donc maintenant je ne pense qu'à ça.
J'ai noté Alice
jour
Rivers.
Jour et nuit. Et ça m'énerve et je suis vexé quand je cherche sur Internet de pas trouver une communauté de gens qui sont genre, mais oui,
à
évidemment.
À fond sur Alice Rivers.
C'est évidemment Mélisandre. Les gens sont genre...
On est là.
Non.
On est là. Regarde, on est 2, 3, 4, on est plein. On est légion. On peut créer notre propre communauté. Donc pour rappel... J'ai même pris des notes parce que je savais qu'on allait en parler. Alice Rivers, on va la rencontrer à la saison prochaine peut-être, si elle est inclue dans House of the Dragons, que j'espère. C'est une meuf qui vit à Arenhall, qui s'appelle Rivers, donc c'est une bâtarde, qui est peut-être la bâtarde de Lionel Strong, souvenez-vous, le père de Larys et Arwen.
Mais d'aucuns diraient que c'était déjà la
nourrice de Lionel Strong. Donc quel âge elle a, on ne sait pas trop, mais peut-être qu'elle ne vieillit pas, ou peu. Comme une certaine Mélisandre. Elle est à Arenhall, où vit la famille Strong, comme on le sait. Et donc, elle va y rencontrer Daemon, qui a dit dans cet épisode, je vais aller à Arenhall parce que c'est un bon endroit où réunir plein de lords qui sont fidèles à nous et où réunir nos armées pour avoir une place forte. Ensuite, elle va y rencontrer Aemon Targaryen avec son œil saphir.
Qui va d'abord?
C'est d'abord Daemon.
Ah oui.
Et ensuite, Aemon.
Elle rencontre d'abord Daemon.
Ouais. Okay. Et elle survit à sa rencontre avec Daemon. Ensuite, elle rencontre Aemon parce que Aemon et Criston Cole partent reprendre Arenhall et Daemon se barre avant qu'ils arrivent. Donc eux, ils s'installent en mode « Ok, on a gagné ». En fait, c'était un piège parce que pendant ce temps, Daemon et Rhaenyra vont prendre King's Landing. Voilà, on vous a dit « On va tout spoiler, on va spoiler ». Elle devient la go de Aemon de Targaryen alors qu'elle est beaucoup plus âgée que lui et qu'elle est pas noble et que... C'est très bizarre et que l'obsession de Aemon pour elle est un petit peu louche. Elle est enceinte de lui, elle porte son enfant officiellement, elle survit à Daemon, elle survit à Aemon, elle les enterre tous les deux. Et c'est
on
une sorcière.
On voit jamais la gueule de l'enfant.
Non mais elle est enceinte quoi. Ouais, c'est... Au début j'étais là, elle prétend être enceinte pour pas se faire tuer.
Maybe a shadow baby.
Maybe a shadow baby. Et c'est une sorcière et il y a notamment un...
Elle voit l'avenir dans le feu.
Oui.
Elle dit « She sees my lady ». Il y a une quote Daemon qui est « My lady, she sees the future in the flames mm-hmm. and many more, and much more. The future and much more. »
Bah, elle voit, si elle est comme Mélisandre, elle voit en effet beaucoup. J'ai non, pas non, la quote elle précise.
Ça, elle dit Anne Matchmore.
Si vous l'avez, les nerds,
il y a une autre quote au sujet de Mélisandre où quelqu'un dit « She sees the future and much more ». Exactement la même phrase.
Mm-hmm.
Big indice.
T'es allé loin, là, t'es allé sur Reddit, big t'as indice. Tapé des trucs et tout, je te vois.
Pour moi, c'est un big indice.
Et les deux actes de magie qu'on la voit faire, mais à chaque fois, c'est présenté comme « Many y a things peut-être and une solution. More », je sais plus comment. Que c'est... Ouais, un truc du genre, quoi. Un truc vague et vaste. Donc, il y a deux occurrences magiques. Il y a la première où il y a un envoyé qui arrive à Harrenhal assiégé et qui, pendant qu'il est en train de parler, sa tête explose. Et certains disent que c'est Alice Rivers, d'autres disent que c'est juste un arbalétrier qui était bien placé, qui a tiré, et parfois ça peut arriver qu'il y a un phénomène comme ça, on a l'impression que la tête explose, mais bon. On ne sait pas, il y a toujours des narrateurs qui sont pas d'accord entre eux dans Fire and Blood. Et il y a une autre occurrence où un messager envoyé par elle rapporte un message et dit... Elle a prévenu que si l'un de vous deux, donc l'un de vous, pardon, des chevaliers, etc., qui raconte ça, rit, je mourrai. Et l'un des chevaliers rit et il meurt sur le coup, il s'étouffe. Et selon certains narrateurs de Fire and Blood, il y aurait eu des traces sur sa gorge comme si une main invisible de femme l'avait étranglé. Donc voilà, Alice Rivers, personnage chelou qui plaît à Aemond, autre personnage très chelou. Et la théorie qu'on adore, c'est que ce serait Mélisandre, puisque Mélisandre, comme on le sait, est très très vieille. C'est le seul personnage de Game of Thrones, je pense, qui a des chances d'être dans House of the Dragon, puisque c'est le seul qui a des pouvoirs de jeunesse, de longévité en tout cas. Puisque quand elle enlève son glamour, son collier magique, elle est beaucoup moins jeune que ce dont elle a l'air. Et on ne sait pas, mais si Alice Rivers, normalement, elle arrive saison prochaine, puisque Daemon est là en route pour Harrenhal à la fin de cette saison, quoi, puisqu'il dit qu'il va y aller. Donc ça serait trop cool.
J'essaie de retrouver cette putain de... J'essaie de retrouver cette, cette citation.
On cherche, on
Accept.
Cherche. Quote. Ce serait pas la witch Alice. De Marvel qui serait cassée en Alice.
Who told you where to find me? My lady, she saw you in a storm cloud, in a mountain pool at dusk, in the fire we lit to cook our suppers. She sees much and more, my Alice. Much and more. Et ça, much and more, c'est un truc qui est dit de Mélisandre aussi. Je vais trouver.
Et donc, Alice Rivers disparaît de Fire and Blood au moment où Aemond et Daemon meurent et du coup ne la côtoient plus. Donc, dites-moi si je me trompe, mais on ne sait pas ce qui lui arrive, on ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas...
Si à un moment elle dit « C'est mon enfant, c'est un prétendant au trône ».
Oui, oui, elle essaye de mettre le fils qu'elle a officiellement eu avec Aemond, pardon. Elle essaye, elle dit que c'est l'héritier légitime du trône et c'est plutôt un acte de haute trahison, mais bon, c'est à la mode. Il y a beaucoup de gens qui vont être héritiers du trône légitime dans la Danse des Dragons et beaucoup de gens qui vont devenir rois, parfois pour très peu de temps. Il me semble qu'il y a une histoire de bâtard Velaryon qui arrive dans la suite. Pensez-vous qu'il puisse nous faire un truc du genre où l'un de ceux-là soit en fait Lenor déguisé ou changé? Alors, c'est possible... Krimel, en effet, il y a, j'ai oublié comment il s'appelle, Adam Velaryon, je crois que c'est lui. Et il y a un autre qui s'appelle un truc genre Aris Velaryon, il me semble. Mais oui, oui, il y a Adam qui est à Driftmark et qui est du coup a priori un bâtard de Corlys Velaryon, qui est présenté comme un bâtard de Lenor, mais tout le monde est un peu en mode, bah Lenor était vachement pas hétéro, donc même ses enfants avec Rhaenyra, on sait un peu que c'est pas les siens, donc à mon avis, il a pas des bâtards avec une random meuf. Donc l'idée, c'est que ce serait plutôt un bâtard de Corlys. Et effectivement, comme là, Lenor n'est pas mort, bah il pourrait faire revenir Lenor sous le nom, enfin sous l'identité fausse d'un bâtard. Je trouverais ça un peu bizarre, parce que autant... en fait, s'il côtoie pas genre ses parents et tout, je peux entendre qu'il soit pas reconnu, mais... Corlys, il les reconnaîtrait, je pense, son fils. Et spoiler, Corlys, il va durer hyper longtemps. Donc, il va être là pour plein plein d'aventures. Et je vois pas comment il reconnaîtrait pas que c'est Lenor, si c'est Lenor. Sauf s'il est vraiment, genre, défiguré de ouf. Ou alors, il saurait que c'est son fils et il est là en mode, ok, bah, comme ça, tu peux revenir à mes côtés. Enfin, genre, c'est possible. Adam, oui. De Vaemond. Non, je crois que c'est des bâtards de Corlys. Ou de Vaemond. Ah oui, ils sont. Ou de Vaemond. Non, je crois que c'est de Corlys. J'avais un peu oublié l'existence de Vaemond avant la série, je vous avoue qu'il m'avait pas marqué. Oui, la famille proche pourrait être dans la confidence. Après, il y a toujours des occasions. Enfin, il y a toujours un monde où Rhaenyra aurait pu dire à Rhaenys Pour info, Lénore, il est pas mort, on l'a fait s'évader. Mais ouais, elle le fait pas. Donc la famille proche pourrait déjà être dans la confidence de pas mal de trucs. Et on voit que Rhaenyra, c'est hyper important pour elle d'avoir les Velaryon dans sa team. Donc c'est un peu étonnant qu'elle joue pas cette carte et qu'elle prenne le risque qu'ils croient qu'elle a fait tuer leur fils, je trouve. Mais comme voilà, dans le bouquin, Lénore est dead, ça c'est tout un nouveau pan qui s'ouvre. Et peut-être qu'en fait, ils vont juste s'arrêter là avec Lénore, c'est-à-dire... Eh, hey, vas-y, on n'a pas fait un millième personnage homosexuel qui se fait buter dans une série où on n'a pas beaucoup. On lui offre une happy end et en fait, il va juste vivre sa vie, on saura jamais. On pourra s'imaginer ce qu'on veut. Ça pose la question de qui va chevaucher Sea Smoke, mais on sait qu'il y a des dragons qui veulent pas se laisser domestiquer même quand ils sont libres, quoi. Donc, peut-être que juste Sea Smoke, personne va jamais le rider. Et c'est pas très grave, quoi.
Whenever she was asked what she saw within her fires, Melisandre would answer much and more.
Boom!
S'il vous plaît, merci.
Alice Rivers, on y croit. Many and more, much and more. J'ai l'impression que c'est une tournure de phrase assez courante dans l'écriture de George R. R. Martin. Quand on veut voir les signes, quand on sait lire entre les lignes et qu'on veut croire à des choses,
d'accord,
on ignore French ce genre fry. De phrase. French fry. Tu as une chanson.
Plaît, French fry. French fry. Je te respecte. À donf. Je te mets au défi. Enfin, je veux que t'ailles au bout de cette réflexion et que tu me donnes, allez, deux occurrences de George R. R. Martin qui écrit Much and More au sujet de choses qui ne sont ni Mélisandre ni Alice Rivers.
Franchement, c'est un fair deal. Ça, je pense que ça se trouve.
Deux.
En vrai. Ok.
Je t'en demande deux. Est-ce que tu peux faire ça? Parce que si c'est
immédiatement
et pas many and more,
hein.
Je parle de much and more. Si tu peux faire ça, French fry,
ça se tente.
Je serais heureux de comprendre ça.
Let's go. Est-ce qu'il va y avoir d'autres time jumps où on va rester à peu près stable? Normalement, on va rester stable parce que la danse des dragons ne dure que 2 ans. En soi, c'est une période très courte. Et là, on y est.
Au contraire de la danse des canards qui perdure encore aujourd'hui dans tous les mariages
et qui dure en ressenti 157 ans. Tout à fait. Il y a beaucoup de pages à parcourir. Ouais, il vaut mieux avoir un Kindle ou une bonne recherche Google French Fry. Si vous avez le livre en numérique, n'hésitez pas à l'aider. Du coup, normalement, non, on va se calmer niveau time jump. Alors, il y a 2 ou 3 questions qui se posent, notamment le fait que les enfants de Rhaenyra et Daemon, donc les 2 petits blondinés Aegon et Viserys, normalement vont avoir un rôle assez actif à jouer et pour l'instant, ils sont très petits. Et s'il y a plus de time... En fait, ils sont trop petits pour ce qu'ils ont à faire puisque... Attendez, j'ai noté. Ouais, en gros, il y a un trio d'actions qui arrive, qui est que ils se retrouvent pris dans une bataille. Aegon le jeune, donc le fils de Rhaenyra et Daemon, et Viserys, le fils de Rhaenyra et Daemon, qu'on a vu là, il les présente à Viserys sur son lit de décès. Là, ils sont vraiment petits, ils ont genre 3 et 2 ans. Normalement, ils sont en voyage, ils se font attaquer. Il y a Aegon qui arrive à s'enfuir sur le dos de son bébé dragon, mais genre de justesse, donc là, mais bon, il a pas 3 ans, quoi. Il y a Viserys qui est capturé, et c'est le moment où Jace, il meurt, où il se fait, son dragon se fait attaquer, par, de tous les côtés, et il tombe de son, enfin, il arrive à sauter de son dragon, mais il se fait planter, et, enfin, il se fait viser par des flèches, et il meurt, Jace. Et c'est ça qui décide Rhaenyra à, en gros, c'est ça qui l'a fait sortir du deuil de Luce et devenir juste ultra vénère. Après, là, dans la série, elle a déjà l'air ultra vénère, donc on verra. Mais bon, du coup, s'il n'y a pas de time jump, ces gamins, c'est vraiment des très petits pour ce qui va se passer. Donc je suis là, j'ai du mal à aller voir sauter sur un dragon et s'envoler, tu vois, c'est des bébous. Mais normalement, donc voilà, il y aura peut-être, je sais pas, l'histoire de 2 ou 3 ans. Mais ce serait bizarre parce que là, ça va aller très vite, hein. Enfin, là, elle est vénère, elle va pas attendre 2 ou 3 ans pour se venger de ce qui vient de se
passer.
Blood
and Cheese, ça arrive dans combien de temps?
Pour moi, Blood and Cheese, c'est le début de la saison 2. Genre, épisode. Avant l'épisode 3, c'est sûr. Parce que c'est la conséquence. Donc, Blood and Cheese, on en parle depuis que Elena a dit « Beware the Beast between the boards ». Blood and Cheese, c'est une des pires scènes,
je pense.
Tout le
monde l'a pris comme le dragon qui sort. Ouais.
Bah, moi, j'y crois toujours pas, mais parce que je trouve que ce dragon, c'est débile. Et du coup, j'ai décidé de l'ignorer.
Ouais,
et de décider qu'il compte pas dans les théories, dans les prophéties, parce que les prophéties, c'est cool. Donc, Blood and Cheese, c'est 2 personnes qui sont embauchées pour rendre la monnaie de leur pièce à la Team Green pour la mort de Lucerys. Et ils s'introduisent par des passages secrets dans des... Donc, c'est 2 gars qui sont sous l'emblée Blood
en fait,
et Cheese.
Faut peut-être pas le spoiler, ça.
Ah bah, vous êtes là, hein, ouais. Je vous le dis. J'ai,
enfin,
j'ai déjà dit
savent,
que Jace meurt.
Ceux qui savent,
bah
ils savent.
Non, mais on est là pour expliquer aussi aux gens qui veulent savoir sans avoir lu.
Ouais,
c'est,
mais
en vrai,
on peut en
je vais
parler,
dire
on
les
peut
choses.
Dire. Moi, je serais pour qu'on n'en parle pas.
Dites-nous dans le chat ce que vous pensez. Je vais me retenir.
Parce que ceux qui savent, ils savent. Mais moi, j'ai juste envie de dire, quand il va y avoir Blood and Cheese dans la série, c'est le Red Wedding de House of the Dragon.
Oui, on est d'accord. Donc, ok, dites-nous si vous voulez savoir ou pas. Allez, balance la sauce. Non, mais toi, tu sais The North Remembers, donc ça marche pas. Si vous savez pas, j'avoue, depuis quand tu veux pas spoiler, t'arrêtes pas de dire oui dans ce truc où on a dit qu'on va spoiler, on va spoiler. Mais là.
Know.
Ok. Ah oui, on va faire un poll. Ok.
Blood, si on y va. Cheese, si on préfère manger du fromage.
Je vous mets.
Tiens, t'as pas un petit bout de fromage qui traîne là? Ou alors, non, t'as pas un. Tu m'as parlé d'un cookie tout à l'heure.
Oui. Tu veux
eh
un
ben,
cookie?
J'aimerais.
Ça part en cookie.
Est-ce que t'as un. Est-ce que.
J'ai pas de lait.
Ah.
Non, je sais. J'ai mangé
sinon,
des cookies hier.
Sinon, dis-moi juste
pour
le
dire,
trouver, je le trouve.
Eh ben, il est. Non, mais c'est un peu chiant parce que je range mes trucs d'une façon spéciale parce que je suis folle. J'arrive. Je te ramène des cookies. Pendant ce temps, les gens y votent.
Faites
pas un 50-50, après c'est chiant.
60. 60-40. Aïe, 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 64-36. Aïe, 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 aïe. Il y en a que 4 qui veulent pas qu'on spoil. Ah là 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 là, suspense est insoutenable. Il y en a 5 qui veulent pas qu'on spoil. Ah là là, ah là 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 là. Ah là là. Ah là, merci. Oh là là. Oh les cookies, oh les cookies.
T'as spoil la mort de Jay, je suis triste. Bah ouais, désolé, mais bon, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont survivre. Hein.
Ils meurent tous.
Ils meurent tous à la fin. Sauf Mélisandre, alias Alice Rivers.
Sauf Corlys.
Même les dragons, ils meurent.
Corlys, ils meurent pas.
Ouais. Ouais,
ils meurent. Tout le monde meurt à un moment. Mais
plus
Corlys,
personne est là dans Game of Thrones.
Il survit à la Dance of Dragons.
Larys, il tient hyper longtemps aussi. Mm-hmm. J'aime trop. Et Tyrion Lannister, histoire tragique, il tient, donc c'est l'actuel Master of Ships qui était là en mode, ah cool, Viserys il est mort, on va pouvoir faire le fameux plan pour mettre Aegon sur le trône, là c'est un des deux Lannister. Lui il tient hyper longtemps, mais il finit défiguré, torturé, aveuglé, il porte une cagoule de soie noire sur son visage pour pas faire peur aux gens, et il redevient grand argentier. Ma boule ou pas? Tu as bien ce petit cookie?
Non, faut que tu les laisses à une distance. Cache.
Hop là. Déplaçage des petits cookies qui ne sont pas homemade, car je fais beaucoup de salé mais peu de sucré. Bon, vas-y, on va raconter Blood and Cheese. Ok. Blood and Cheese. Horrible. Nous sommes dans la chambre d'Alicent. Elle vient rendre visite à sa fille Elena et ses 3 petits-enfants que Elena et Aegon ont eus, qui s'appellent Jaerys, Jaera, et Melor. Donc un jumeau et une jumelle et un plus petit garçon. Sauf que Blood and Cheese, 2 tueurs à gages en gros, ont été recrutés par la team Daemon. Oui, Alicent, ça se passe sous les yeux d'Alicent. Horrible. Et il la ligote et tout en attendant que Elena et les gamins arrivent. Elena et les gamins arrivent, ils les attrapent et ils disent à Elena, on va tuer un de tes fils contre le fils, enfin en gros c'est un son for a son, un fils contre un fils. Et ils disent, tu choisis lequel on tue. Donc elle est là, bah non, tuez-moi et tout. Et ils sont là, non, on veut tuer un de tes fils.
Tuer une reine, c'est quelque chose.
Tuer un enfant héritier du trône, il y en a d'autres.
Nous, on est juste. Eux, ils disent, nous, on est juste.
Oui.
Vous nous avez tué un de nos gamins. On joue fair play. On tue un des vôtres.
Mais ils jouent pas vraiment fair play.
Attends. Au début, ils disent ça.
Oui.
On tue un des vôtres et on se barre. On vous laisse en vie, on tue pas Alicent, on tue pas.
Oui, on n'est pas là pour planter Aegon ou quoi.
Ouais.
Et effectivement, quelqu'un le disait sur le chat, Cheese, il sait comment se repérer dans le château parce qu'il connaît pas mal de passages secrets du donjon rouge. Parce que son métier, c'est d'y chasser les rats. Voilà, tout simplement. Et en fait, Elena, elle finit par choisir son plus petit enfant pour qu'il meure en se disant peut-être que bah il s'en souviendrait pas, qu'il est tout petit, il a 3 ans, il s'en souviendra pas, je sais pas, et du coup il tue l'autre pour que celui qui reste en vie sache que sa mère avait voté pour lui et que bah il tue celui qu'elle voulait garder en vie. Donc c'est doublement horrible et en fait ça détruit Elena totalement, elle est complètement bloquée, elle devient folle quoi, elle perd la raison.
An eye for an eye, a son for a son.
Voilà. Alors, ce n'est pas comme ça que fonctionne la justice, hein, ne faites pas ça chez vous. Et après ça, Elena n'est plus... En fait, ça enlève aussi une des puissances de feu de la Team Green, puisque Elena va absolument pas combattre sur son dragon. Elle est complètement bloquée, quoi. Et elle finit, il me semble, par se suicider, Elena. Par sauter sur des pics dans les douves et y mourir à petit feu. Donc, je pense que Blood and Cheese, ça va être effectivement, comme tu dis, c'est le Red Wedding de House of the Dragon.
Dans le genre impact, quoi.
Ouais, et dans le genre cruauté, dans un endroit où tu devrais être safe, tu vois, c'est vraiment, ouais. Elles sont chez elles, c'est la nuit, c'est le donjon rouge et tout, c'est horrible. Et c'est ce qui va aussi faire qu'on va être beaucoup moins Team Rhaenyra et Daemon, parce et c'est horrible
aussi
de faire
c'est,
ça.
C'est Misaria qui les envoie.
Oui, c'est via Misaria. Donc à voir si donc Misaria c'est la meuf qui traînait avec Daemon.
Misaria
n'est
pas morte.
Espionne,
hein. Les
là.
Gens qui posaient la question.
A priori elle est pas morte, même si Otto a fait mettre le feu à sa maison, on l'a pas vu mourir. Et en fait la question qui se pose c'est est-ce que ils vont faire genre Daemon et Rhaenyra ont juste donné l'ordre de aller prendre un de leurs gamins, mais pas de le faire aussi cruellement. Et du coup, c'est Misaria qui a pris l'initiative parce qu'elle est là en mode, il faut protéger le peuple et tout, vous êtes des connards,
ouais.
au Red Keep. Ce qui fait qu'on déteste moins Daemon et Rhaenyra pour ça.
Ouais, peut-être
même que Rhaenyra, elle sera pas au courant et que c'est que Daemon qui va faire ça. Mm-hmm. Mais ça fait un peu trop gentil, je trouve, pour Rhaenyra. Mais
ouais,
je pense que ça va arriver assez
gentil,
vite.
Ils nous la vendent gentille, putain, ils nous la vendent trop gentille.
Bah ouais, mais faut pas qu'elle soit trop gentille. Tout le monde l'aime déjà beaucoup, c'est clairement le personnage principal,
ouais,
tu vois.
Moi, je veux que les gens soient un peu tarés, quoi.
Ouais, et normalement, elle est... Enfin, il y a des
je
moments où on
pas
va pas
séries,
être dans cette
série. Si je veux des gens gentils, je vais chez mon fromager, tu vois.
Ils sont gentils chez Frescolé.
Ouais. De ouf. Si je veux des gens gentils, je vais chez Via Emilia avec toi, tu vois.
Oh, c'est des raviolis. Délicieux.
Si je veux des gens gentils, je regarde les Bisounours, quoi. Je sais pas, je regarde Ted Lasso. Enfin, si je veux regarder des
c'est
gens
sympa,
gentils.
C'est sympa, Ted Lasso.
En vrai, voilà.
C'est
si
sympa.
Si je veux regarder des gens gentils, je regarde Ted Lasso. Tout simplement.
Donc, je pense que Blood and Cheese, ça va être le choc du début de la saison. Et je pense que la saison va se finir sur la prise de King's Landing par Rhaenyra et Daemon. Ce qui fait qu'il y a, alors, il y a pas mal de choses qui doivent arriver entre temps. Mais il y en a aussi qui peuvent potentiellement passer un peu, tu vois. Et ça fait qu'en gros, il y a trois temps forts dans 10 épisodes. Il y a Blood and Cheese au début. Il y a la prise de King's Landing à la fin, où Daemon et Rhaenyra arrivent dans King's Landing, où il n'y a pas Aemon des Vagar. Donc ils peuvent prendre la ville et vraiment, genre, ils font Alicent prisonnière et tout. Genre, elle s'assoit sur le trône de fer. Je me dis que ça fait une bonne fin de saison, tu vois. Rhaenyra sur le trône de fer et elle se coupe. Dans le livre, quoi, la première soeur qu'elle passe dessus.
Ah ouais.
Donc la Viserys vie est réelle. Et entre-temps, il y a une scène forte. Vous allez pas râler, ok, je le dis. Il y a une scène forte demi-saison qui est peut-être une des scènes que j'ai le plus hâte de voir. C'est la mort de Rhaenys. Et sur son dragon Maelys, qui va être hyper cool à plein de niveaux.
Classe.
Et en même temps, mettre des gros puntos dans la Team Green parce que c'est un piège en gros que Aegon et Aemond lui tendent et elle tombe dedans. Elle va tomber dans un traquenard et ils vont arriver avec le dragon de Aegon Sunfire, mais aussi Vhagar, lol. Et elle a beau avoir un gros dragon, deux dragons c'est beaucoup. Et du coup, elle va mourir. Elle va go out with a bang et ça devrait être un beau moment et en plus
pas Aegon
tout le monde
qui se fait très mal à ce moment-là.
Ouais, et c'est un combat décisif pour Aegon et son dragon.
Il se fait pincer très fort, comme dit le lapin de la RATP, il se fait pincer très fort.
Il a bien mis les doigts dans la porte et il finit estropié, donc il peut plus marcher. Il a les jambes, il est tellement brûlé que son armure a fusionné avec son corps, avec sa peau. Ouais. Il est défiguré, il peut plus marcher, il montera plus jamais sur le trône de fer. Il gouverne depuis une civière qui est au pied du trône de fer. Et son dragon se fait arracher une aile à moitié et agonise pendant des jours et des jours avant de mourir. Donc c'est quand même... Elle meurt, mais elle a retiré... je me dis que ça peut être saison 2, ça arrive assez vite, puisque là, elle est partie surveiller le détroit, là. Mmh. Et normalement, ça arrive là. Donc, potentiellement, il y a pas mal de dragons qui vont prendre cher, et pas mal de Targaryens et de personnages importants.
Donc, il n'y a que 3 saisons dans cette fucking série.
Bah, ça dépend où ils s'arrêtent, en fait. Est-ce qu'ils s'arrêtent à la fin de la Danse des Dragons et à une certaine personne qui monte sur le trône, qui n'est pas Rhaenyra, en fait. Enfin, Rhaenyra, elle va monter sur le trône assez vite. Potentiellement, fin de saison 2, elle est dessus. Après, est-ce qu'elle y reste et comment elle le tient, c'est une autre question. Mais la Danse des Dragons ne s'arrête pas avec Rhaenyra. Mais je sais pas s'ils peuvent faire une saison sans Rhaenyra, tu vois. Je sais pas si les gens, ils vont suivre une dernière saison en mode notre héroïne est morte, mais en fait, c'était l'histoire de Aegon depuis le début, tu vois. Je suis là. Je sais pas si les gens, ils vont tenir à ce point-là. Donc peut-être que ça ira un peu plus vite que prévu ou qu'ils vont un peu plus s'étaler. Et si la prise de King's Landing arrive en saison 3, c'est très bien aussi, tu vois.
Saison, moi je pense 3 saisons.
Ouais. 3 saisons, direct. Oh là là, t'imagines.
Non, mon rêve, c'est vraiment qu'ils fassent ce truc d'anthologie.
Ouais. Et que du coup, ils s'arrêtent quand.
Et qu'il y a 7 House. Donc, 3 saisons sur la Dance.
Ouais.
2 saisons sur la Conquest.
Yes.
3 saisons sur Duncan Egg. Et qu'on n'en parle plus.
Et allez. Et ça nous emmène tranquillement au premier reboot de Game of Thrones. Et
ça
après,
nous fait 8.
Ouais, c'est bien.
Et pendant ce temps, Corlys.
Yes.
E.T. Jon Snow.
Et on est dans l'univers étendu.
Et on est bien.
Moi, j'y crois. Mais du coup, ils peuvent étaler un peu plus. Il y a plein de persos cool que j'attends de voir, notamment les Stark et les loups de l'hiver, qui sont en gros des armées d'hommes du Nord, qui viennent pour soutenir Rhaenyra, parce qu'effectivement, les Stark sont team Rhaenyra, parce que les Stark n'oublient pas leur serment. Et que Stark et Jace vont bien s'entendre. Vous allez voir qu'il va pas se faire... Winterfell, c'est pas un traquenard, ok? Il respecte les gens là-bas. Et il y a donc toute une armée de mecs du Nord qui finissent par arriver un peu en retard parce qu'ils ont dû aider à rentrer les réserves et tout, parce que guess what, winter is coming, comme d'habitude. Et en fait, ils viennent et ils ont grave pas peur de mourir parce qu'ils sont là. Honnêtement, si on revient tous, il y a pas assez de bouffe pour nous tous. Donc si on revient tous, c'est dangereux pour nos familles et nos proches. Donc il y a une gloire à mourir au combat et aussi à pas encombrer tout le monde en revenant. Donc ils sont vraiment
Stark,
ils ont pas ah non mais tellement Stark, c'est vraiment des Boromir là tous.
Le Nord quoi.
Ouais, le sacrifice du Nord.
Ouais, ouais.
Et il y a un moment assez cool où donc il y a une partie de ces hommes du Nord qui vont survivre évidemment, et au moment où le royaume se rétablit un petit peu de la danse des dragons, en fait, il y a plein de femmes qui sont veuves et de nobles qui sont veuves parce que tous les maris et tous les fils et tous les héritiers sont allés se battre et s'entretuer. Et du coup, il y a plein d'hommes du Nord qui, en rentrant chez eux, bah, s'arrêtent en chemin, et il y a des balles qui sont organisées où il y a plein d'hommes du Nord qui se marient avec plein, du coup, de femmes de partout à Westeros. Et ça redonne un peu d'espoir dans le royaume. J'ai grave hâte de les voir. Mais après, moi, j'avoue, je suis un peu une normie, j'aimais bien les Stark, tu vois.
Moi, il y a un spot où on n'est jamais allé dans Game of Thrones, et on n'ira jamais dans House of the Dragons, et où j'aimerais bien aller, et toi, t'en as rien à foutre. C'est Maud Cailin.
Non, mais maintenant j'en ai quelque chose à foutre parce que j'ai regardé tes vidéos de nerd là. Alors, mes rappels, c'est dans le Nord?
Non.
Ah bah,
c'est
voilà.
Le Neck.
Ok, oui, d'accord. C'est le,
ça, okay.
C'est le trident. Non.
Non,
c'est quoi
le
en
neck,
français
c'est
le
genre...
Neck?
Le Neck, c'est le début du Nord, je crois.
Ah oui, ok, oui, je vois. Je suis nul en carte. Je vais ouvrir la carte, j'arrive. Internet.
Et Maud Cailin, c'est genre dans les marécages. Et
c'est là d'où ils viennent les
c'est
rides.
C'est là où ils viennent les Jojen et.
Ah, bien sûr.
Et sa pote.
Ça, les rides, j'aime trop les théories sur les rides. Donc, ouais. Ah oui, c'est la mode Kaylin, ok, je vois.
Tu vois
okay. Regardez chez vous, désolé, j'ai pas préparé les cartes cette fois-ci.
Ouais.
J'ai pas bien fait mon travail,
Mod
je savais Kaylin, pas
c'est en milieu des marécages. Et ils sont. Et les gens, les habitants du Neck, ils sont tout petits. Et ils sont tout
un
poilus.
Peu verdâtre.
Ouais, et ils sont un peu verdâtres. Ils sont
peu
un peu genre.
Grenouille.
Ils ont Ken avec des Children of the Forest. C'est
oui,
clair,
ils ont de la mousse entre les orteils,
net
quoi.
Et précis, ont Ken avec des Children of the Forest.
Mm-hmm.
C'est clair, net et précis.
Et c'est peut-être. Howland Reed, ils ont un château qui se déplace et tout.
Ouais, le château, il bouge parce qu'il est sur une espèce de.
De pilotis un peu
ouais,
sur les marécages.
Ouais, ouais, un truc chelou. Ouais, ouais.
Ouais, et maintenant je sais qu'il y a un truc de pierre noire à Maud Cailin, c'est ça?
Non, je sais plus.
Il me semble, je suis deep dans le, je suis dans non. Le lore, mais je suis à la moitié du coup
de
l'explication.
Pas de pierre noire. Non, pas de pierre noire.
Pas de pierre noire à Maud Cailin. Okay.
Pierre noire dans le wall, peut-être.
Peut-être. Mmh. Peut-être. Bah, du coup, il y a pas forcément de raison qu'on y aille dans House of the Dragon, mais on a vu des endroits qu'on n'avait pas trop vus. On a vu Storm's End, que je crois
ouais.
On n'avait jamais vu, et qui est un château magique, enfin, qui est un château qui peut pas exister comme beaucoup de châteaux dans cet univers-là. Puisque la légende, c'est que c'était un défi lancé au dieu de l'orage ou quelque chose comme ça, que d'essayer de construire un château dans cet endroit où il y a tellement de tempêtes, et du coup il y a je sais plus quel héros qui a recommencé encore et encore et encore à faire des châteaux jusqu'à réussir avec en usant de magie et de sorcellerie jusqu'à réussir à faire le château de Storm's End qui tient magiquement contre les tempêtes et qui a des dimensions absolument impossibles à construire pour l'époque et pour un endroit où vraiment il y a de l'orage tout le temps quoi.
De toute façon dans tous leurs châteaux il y a de la magie hein.
Oui, dans Winterfell il y a un dragon.
Dragonstone, c'est de la fused stone.
Donc c'est de la pierre qui a été fondue par des dragons
avec
façonnée de façon magique
ouais.
Par des magiciens. Donc ça demande les deux, les sorciers et des dragons.
Come on. Fucking Pierre.
Il y a des légendes qui disent que les sourceaux chaudes de Winterfell sont le fait d'un dragon endormi sous le château. Mais peut-être que c'est juste de la géologie, bien sûr, et que les légendes sont des légendes. Le Red Keep.
Le dragon est métaphorique.
Oui, le dragon est une allégorie. Le Red Keep, on sait qu'il est criblé de passages secrets maudits, de constructions bizarres et maintenant de crânes de dragons et de feux grégeois, ce qui est toujours plaisant. Donc oui, les châteaux cachent des choses. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de la chanson en valyrien de Daemon et de
oui,
ce que ça veut dire ?
S'il te plaît. Okay.
Je vais rouvrir les paroles. Donc on va reparler de la chanson que Daemon chante à Vermithor. Parce que il y a
Vermithor,
beaucoup de choses qu'elle peut
Vermithor,
vouloir dire.
Vermithor, dans ton placard à balai, prends garde, prends garde.
Non, j'essaie de retrouver le poste.
Patin, patin, pom, 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 pom. Je suis un petit dragon qui s'appelle Vermithor. J'aime me balader dans les chemins de Westeros.
Ok. La chanson de Daemon à Vermithor. Donc
traduit par qui, par comment, qui, quoi, comment, quand as-tu, comment
Je l'avais dans l'épisode Qu'est-ce précédent, c'est David Peterson.
Il y a, qui on est... peut acheter, est-ce qu'on peut aller sur Amazon et acheter un manuel pour apprendre
peut-être
le valyrien?
Peut-être.
Parce qu'on peut faire, on peut acheter un manuel pour apprendre le Dothraki.
Oui.
Mais est-ce qu'on peut apprendre le haut valyrien?
Eh ben écoute, je vais chercher. My Valyrian Notebook, Learn Valyrian Language, Valyrian Vocabulary, voilà, on dirait. Est-ce que c'est legit? Je suis pas sûre. Non, je pense que c'est moins développé quand même le haut valyrien que le Dothraki. Mais tu peux l'apprendre sur Duolingo, apparemment.
Ah oui.
Incroyable. Donc, les paroles évoquent...
Moi, je suis dingo de Duolingo.
Ah ouais? Le petit hibou, là?
Je suis coucou pour Coco Puff.
Waouh, on se perd, il est tard, putain, il est 23h. On arrive, les Targaryens, ok. Qu'est-ce qu'on en dit de cette chanson? Qu'est-ce qu'elle signifierait pour les esprits éclairés et les sachants qui savent lire entre les lignes?
Fire Breather, Winged Leader, but two heads to a third sing from my voice. The fires have spoken. And the price has been paid with blood's magic. With words of flame, with clear eyes, to bind the three to you I sing. As one we gather, and with three heads, we shall fly as we were destined. Beautifully, freely.
J'espérais un peu que tu la chantes en valyrien.
Firebreather. Cracheur de feu. Winged Leader.
Leader ailé.
Leader ailé. But two heads to a third sing. Mes deux têtes.
Chante à une troisième.
De ma voix, les feux ont parlé. Et le prix a été payé avec de la blood magic, de la magie de sang, qui est un petit peu, voilà, les magies de sacrifice.
Une des rares
en fait,
magies qu'on a vu marcher voilà dans Game of Thrones, puisque c'est comme ça que Mélisandre fait des Shadow Baby, par exemple.
C'est comme ça que les dragons naissent.
Les gens ne le savent pas
on
encore.
On brûle Miri Mazdur, on brûle. Non, mais je veux dire, c'est comme ça que dans Game of Thrones, les gars,
oui,
vont naître. On brûle Miri Mazdur, on brûle le corps de
Khal Drogo.
Et boum, ça fait des dragons.
Son corps, il est, je sais plus s'il est 100% voilà mort ou pas.
As when we gather and with three, et puis même les sensus pour voir dans le.
Oui.
As when we gather with three heads, we shall fly. On est réunis, les trois sont réunis. Donc il y a cette espèce de truc de trois ici. Il y a toujours trois têtes au dragon.
Et ça vient du coup pour nous d'une théorie qui voudrait que les dragons aient été créés en mélangeant trois créatures. L'une qui sont les wyverns, donc qui sont des un peu comme des dragons mais en plus petits et qui font pas de feu.
Ouais.
Donc ils volent et tout mais ils font c'est le genre des ptérodactyles.
Pour les Tolkienistes.
Oui.
Ce sont les montures des Nazgûl.
Ah bah oui. bah, des ptérodactyles quoi en gros. Il y a les fireworms qui sont comme des dragons mais sans les ailes et qui du coup creusent dans la terre et font du feu et qui peuvent devenir très gros et très
qui
agressifs.
Sont des, qui sont des vers.
Voilà, des vers qui creusent la pierre et la terre et qui sont référencés plusieurs fois dans la saga.
Donc, tu as ces créatures-là. En fait, tu as un gars, tu as un maester qui a écrit un bouquin dans l'univers de Game of Thrones qui s'appelle
Dragons,
Worms and Wyverns.
Their Unnatural History.
Leur histoire
non naturelle. Donc,
il est question que l'histoire nous dit que les dragons sont arrivés dans les 14 fires.
Les 14 flames. Donc les 14 flammes, c'est l'autre nom de Valyria où il y aurait 14 volcans, hein, tout simplement.
Région volcanique de Valyria. Voilà. En tout cas, je sais pas s'il y a d'autres régions non volcaniques à Valyria. J'ai pas l'impression. Mais, donc, ils seraient nés dans ces volcans.
Oui, ils ont pas toujours été là, les dragons.
Et, en fait, on raconte que les Valyriens avant étaient
des bergers.
Des bergers.
Les Targaryens, oui.
Oui, en tout cas, les Valyriens.
Non, les Targaryens. Les Valyriens, ils avaient pas déjà une société cool?
Non.
Ok, les Valyriens. Ok, faut suivre.
Les Targaryens, c'est une famille de Valyria.
Oui, et une famille un peu prolo de Valyria en plus. Ok, c'est les Valyriens qui étaient des bergers jusqu'à ce qu'ils aient des dragons. Et que du coup, ça se passe mieux pour
eux. Quand ils ont eu les dragons, qu'ils ont conquéri le monde, en fait.
Oui.
Et en gros, des Blood Magicians seraient venus leur apprendre à apprivoiser les dragons. Mais est-ce qu'ils ne l'auraient pas appris à créer les dragons déjà ?
Oui, c'est ça. C'est que la théorie, c'est qu'il n'y avait pas de dragons, qu'ils ont été créés par l'homme et en utilisant la Blood Magic, et que c'est ça qui a amené les cataclysmes aussi. Enfin, on a créé notre propre destruction, quoi, ce qui est une bonne allégorie.
Or, on parlait déjà de dragons à Ashai avant. Donc, je pense que moi, il y aurait eu des dragons à Ashai.
Ashai qui est tout à l'est, et où il n'y a plus grand monde qui vit, mais c'est une immense ville.
Il y aurait eu des dragons dans les temps anciens.
Oui.
Vraiment préhistoire, etc.
Okay.
Avec des Dragon Riders, qui seraient the Golden Empire of the, qui seraient the Great Empire of the Dawn.
Yes.
Que les réminiscences de ce Great Empire of the Dawn, les
descendants?
Des Blood Magicians, peut-être the Church of Starry Wisdom, peut-être juste des Blood Magicians, quoi, des Shadowbinders, peut-être, tout simplement.
Mais qui vivent à côté, hein,
qui vivent à Ashai. Ashai, le dernier rempart du Gold, serait le dernier rempart. C'est pas, ça, tout ça, on le sait pas. Mais on devine, géographiquement, que Ashai serait le dernier rempart du Great Empire of the Dawn, ou l'endroit où le Bloodstone.
Capitale.
Non, pas la capitale, parce que.
Il y a des théories qui disent que ça aurait été la capitale.
Peut-être que ça aurait été la capitale.
Parce que c'est hyper vaste, ils disent que tu peux genre faire entrer King's Landing et, Highgarden et Casfin, toutes les grandes villes, tu pourrais les faire entrer dedans et avoir encore de la place.
C'est la plus grande ville de l'univers de Planetos.
Mais elle est vide, elle est quasi vide et maudite, et les seuls gens qui y vont, c'est des gens qui veulent étudier les Dark Arts.
Ouais.
Et il n'y a pas d'enfants ni d'animaux.
Les gens qui sont masqués, les poissons qui coulent dans les rivières sont déformés.
Il n'y a que de l'herbe toxique qui pousse, enfin, c'est pas fréquentable. Mais
Mordor.
C'est immense, quoi.
Mais, et encore? Quand tu remontes la rivière, il y a une autre ville qui s'appelle Stygai, où genre même les Shadowbinders ont peur d'aller.
C'est-à-dire que c'est la banlieue chaude de la banlieue chaude, quoi.
C'est vraiment le...
La no-go zone de la no-go zone. C'est genre là, nous, on traîne pas là-bas.
Qu'est-ce qu'il y a là-bas, quoi? Et les gens disent, dans les montagnes, il y a des dragons. Et il y en a toujours eu. Donc en gros, peut-être que qu'il y a eu une science pour créer le dragon à cette époque-là, cette époque ancienne d'Ashai. Et que ces magiciens, en l'occurrence, ces Blood Magicians, auraient déjà vécu la première Long Night. Et là, on en revient à ce qu'on avait dit.
Une longue période, une longue nuit, un long hiver,
ouais.
Où quasiment toute la population est morte, enfin, a été décimée, tout simplement.
Et il y a eu Azor Ahai.
Une génération entière, il n'y aurait pas eu de soleil.
Et il y a eu Azor Ahai qui arrive à ce moment-là. Ça, c'est des légendes, des trucs pas clairs, on ne sait pas trop. Ça s'est passé
à Essence. Ça se retrouve à plein d'endroits différents du monde. Exactement. En même temps. Il y a plein de peuples qui l'évoquent sous différents noms, mais la légende d'un héros qui a ramené l'aube après une longue nuit.
Ouais.
Le consensus, c'est qu'il y aurait une longue nuit, par exemple, un genre de nuit, de météorite, tu vois. Ça ressemble un peu à un hiver nucléaire aussi, quoi.
Exactement. Ces gens-là, auraient pris connaissance d'une prophétie qui annoncerait le retour de cette longue nuit et des Others qui viendraient du nord de Westeros. Mm-hmm. Et donc, l'idée, ce serait que les quelques survivants de cette longue nuit et de ce peuple-là, arrivent à Valyria, génétiquement créent les Valyriens, créer les dragons et leur transmettre ce truc de blood de blood of the dragon pour
oui, c'est le côté lignée génétique, quoi,
pour créer un peuple qui soit capable de contrôler les dragons pour 1000 2000 3000 ans plus tard faire face à cette menace.
Mm-hmm.
Donc comment ils les créent, les dragons?
Let's
en fait,
go.
Comment il les crée, les dragons? Là, on nous parle de trois têtes, trois créatures. Remets le.
Yes, je te remets les paroles.
Fire Breather, ce serait le Worm.
Le Fire Worm, qui donc Fire n'a pas d'ailes, mais qui crache du feu.
Winged Leader, ce serait le Wyvern.
Qui a des ailes et qui ne crache pas de feu.
Qui a des ailes et qui ne crache pas de feu. Mais deux têtes ne suffisent pas. Elle chante à une troisième tête. Mmh. Et la troisième tête, c'est l'humain. Et l'humain est lié à ces deux créatures par un sacrifice de sang. OK? Et là intervient le concept de dracomorphe. Qu'est-ce que le concept de dracomorphe?
Accrochez-vous. Qu'est-ce que le concept de dracomorphe?
Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont vu Alien?
C'est... Ça finit pareil que les xénomorphes, c'est peut-être pas un hasard.
Ouais. Donc comment ça fonctionne, les xénomorphes d'Alien? C'est que, en gros, ce sont des créatures qui ont besoin d'un incubateur, quoi, pour se reproduire, qui vont, voilà, balancer une sorte de larve, qui va se coller à la bouche de quelqu'un pour pondre des œufs dans une créature, que ce soit un humain.
Bien.
Ou un extraterrestre, de quelque forme qu'il soit. Et ensuite, la forme adulte de la créature va sortir de que ce soit, si c'est un humain, ça va sortir d'un humain, si c'est un tigre, ça va sortir du tigre, et au passage, il prend des traits de l'ADN de cette créature.
De son hôte.
De son hôte. Donc, si tu fous, imaginons que ce soit le Fireworm, parce que on a un indice dans Fire and Blood.
Mm-hmm.
On va en parler plus tard. Mais en gros, Dracomorph, la théorie, c'est que voilà, il y a eu des
chimères, en fait.
Ouais, il y a eu des chimères.
En gros, on aurait fait incuber dans des femmes humaines un mélange de Fireworm et de Wyvern, donc un truc qui crache du feu et qui vole pas, et un truc qui vole et qui crache pas de feu, et que ça aurait fini par donner naissance au premier dragon, que ça expliquerait le lien magique avec les dragons, parce que littéralement, ils partagent une partie de leur sang et de leur ADN avec les humains Targaryens qui ont été leurs hôtes, enfin Valyriens, et que ça a nécessité beaucoup de mort et d'esclaves torturés de faire ces expériences.
Et ensuite, les dragons, une fois qu'ils sont créés, ils peuvent se reproduire entre eux, tu vois.
Oui, mais ça, on sait même pas encore. On sait même pas vraiment comment ils font, tu vois. Ils peuvent, mais on sait même pas. Et ça arrive, et voilà.
Et peut-être que ça implique des morts.
Oui.
En général, ça implique du sang, en fait.
Au moins.
Et en général, il faut qu'il y ait le sang coule pour que la vie magique naisse. Tu vois ce que je veux dire? Pareil.
Et il y a beaucoup, alors j'en ai parlé dans le podcast, j'ai quand même dit que dans le livre, il y a beaucoup d'occurrences de bébés Targaryens qui naissent difformes, avec des écailles, avec des queues de dragons,
ça, c'est une
avec
preuve,
des embryons d'ailes et tout.
Une preuve de c'est l'ADN Targaryen. Truc.
Oui, qui est chimérique, quoi, qui est mêlé à celui des dragons. Ils font des bébés dragons avortés, quoi.
Ils ne craignent pas le feu.
Ils craignent moins le feu.
Chez toi.
Quoi?
Oui, une bestiole qui
vole ou qui marche?
Ben, je sais pas, qui marche.
Mec, j'ai peur des bestioles.
Bah oui, mais faut pas laisser la fenêtre ouverte.
Bah oui, mais après j'ai chaud.
Ben, bon. Le prix à payer, c'est le Blood Magic.
Je vais fermer la fenêtre.
Je pense que c'est encore une de vos fameuses...
C'est une punaise ? Non, ouais. Elles vivent sur le mur, les punaises. Ouin. Je vais aller fermer la fenêtre, mais je suis pieds nus, il faut que je marche par terre. J'y vais, je suis très courageuse, Twitch, regardez. Ouin. Parle des fireworms, ça va me distraire des bestioles.
Bah ben non, mais c'est dégueulasse en plus.
Ça va.
Même si t'en ouvres une... Attends, tu fermes l'autre. Mais c'est vrai qu'il fait chaud. Hein.
Ah ouais, je sais. Il n'y a plus de saison.
Ah, ma bonne dame. Donc, en gros...
J'ai survécu.
Le fireworm, en gros. En gros, pourquoi cette histoire de fire... Donc, en gros, voilà. En gros, voilà. Les dragons seraient des espèces de xénomorphes, au final, à la base, qui auraient été incubés par des Valyriens. C'est pour ça qu'ils ont ce lien avec les Valyriens.
Tout à fait.
Et cet ADN en commun. Pourquoi on pense ça ? Est-ce qu'on est fou de penser ça ?
Bah moi j'y crois, donc évidemment qu'on n'est pas fou. Et je pense.
Il y a deux semaines, est-ce que tu aurais cru ?
Ouais, j'étais mûre, je pense. Non, mais je pense que ça a du sens parce que j'aime bien l'aspect poétique de. Ils ont apporté leur destruction sur eux-mêmes. Je trouve que cet épisode, il explique bien le fait que Viserys avait peur des dragons et qu'il disait l'idée qu'on contrôle les dragons, c'était une illusion. Mmh. Et je trouvais ça bizarre qu'un Targaryen pense ça, mais plus ça va, plus je suis là. Ok, en fait, j'avais pas dans la tête l'option de les dragons, ils ont été créés par l'homme. Tu vois, pour moi, c'était juste, ils ont toujours existé, c'est des animaux, quoi. Et en fait, je suis là, ah non, si on les a créés, et que c'est encore une fois une métaphore pour l'arme nucléaire, en effet, ça marche hyper bien de dire c'est les Valyriens qui ont créé leur propre destruction. Donc j'aime bien cette théorie.
Et encore une fois,
Momo, si, t'as vraiment bavé sur le canapé. Frère.
Si c'est les envoyés du dieu du feu, à savoir les Blood, les Great Empire of the Dawn, qui engineer les dragons et que c'est les envoyés des Old Gods qui crée les si c'est la même si
ah attends je vois la bestiole je vais la tuer
si le bah, bah, tu l'as avant qu'elle arrive juste sur moi
c'est quoi
ah, c'est une bestiole hop là
je l'ai tué avec Fire Blood.
T'as fait un sac ça veut dire que un dragon va éclore de ce livre. Il y a eu un blood sacrifice qui a eu lieu là. Mais c'était vraiment une vilaine bestiole.
Ouais, on aurait dû sauter ou quoi. C'était pas ouf.
Non, écoutez, c'était cafardesque.
Je suis désolée. Cafardesque, ah non.
Ah, c'était cafardesque. Voilà.
Écoutez, je l'ai tué en lui lâchant Fire and Blood dessus. No joke, je m'occuperai de nettoyer.
Donc, ouais, voilà. Si on respecte l'idée que c'est les Children of the Forest qui ont fait naître les Others avec le sang des.
Ce que Game of Thrones a l'air d'avoir confirmé.
Avec le sang. Oui, mais.
En plantant un homme.
Est-ce que ça va être respecté dans les livres? On sait pas.
On sait pas. Mais ça a pas l'air d'être le genre de truc que George R. R. Martin critique. Ce truc-là okay. Où les Children of the Forest ont créé les Others, je crois pas qu'il soit revenu dessus. Dites-moi si je me trompe.
Mais en gros, ça justifie aussi plein de trucs de les dieux contre les dieux et les
oui.
Créatures de Westeros qui font leur.
Qui se retrouvent mêlés à tout ça, ouais, et en même temps, qui disruptent aussi, parce que les hommes sont trop nombreux, parce qu'ils abîment l'environnement, parce qu'ils créent des dragons qui finissent par détruire la moitié du monde, tu vois, il y a aussi ce truc de, ils dépassent les dieux, et maintenant il n'y a plus trop de dieux, mais les derniers qu'il y a, ils sont en colère, quoi. Et peut-être qu'ils vont finir par se réveiller. Mais
donc pourquoi, moi j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'une des preuves. Parce que, quand tu dis dracomorph, les gens ils disent, t'as fumé, putain. T'es qui? Tu dis nimp. Eh ben, raconte-nous l'histoire de Helena, là. Comment elle s'appelle? De la Targaryenne.
Aera Targaryen. C'est une de mes histoires, bref.
C'est dans Fire and Blood?
Oui.
Mais ça se passe avant la Danse des Dragons?
Oui, parce que...
Parce que Fire and Blood, attention, c'est pas que la Danse des Dragons. Hein. C'est toute l'histoire des Targaryens depuis Aegon.
La Danse des
Dragons,
c'est genre 200-300 pages sur 1000. Donc c'est entre Aegon le Conquérant et la fin des dragons. Donc vraiment, il se passe beaucoup de choses. Il y a une meuf qui s'appelait Aerea Targaryen, qui, à l'âge de 17 ans, est montée sur le dos de son dragon.
Là, on est pendant Jaehaerys.
Oui.
Donc
il n'y a pas si longtemps. Le roi d'avant Viserys. Le vieux roi au tout début de House of the Dragon, là, qui dit « Désolé, c'est pas Rhaenys qui va être reine, c'est Viserys, parce que les lords ont voté. » Donc il y a une jeune Targaryen qui s'appelle Aerea, très pratique à prononcer, qui monte sur le dos de Balérion, le plus grand et le plus vieux dragon, celui qui a fini par mourir et dont on voit le crâne, et qui était un des derniers survivants de la conquête de Aegon, qui a conquis Westeros. Et elle a disparu pendant plus d'un an. Et un jour, Balérion est revenu avec elle sur son dos. Balérion, il avait une plaie énorme, il avait plusieurs blessures anciennes, enfin, qui avaient plus ou moins guéri, et il avait une plaie énorme au ventre qui guérissait pas. Et elle était dans un état de fièvre et de délire, elle était brûlante, et en fait.
Inconsciente.
Elle marmonnait des choses. Okay. Et le Septon a dit que il osait pas écrire ce qu'elle lui avait dit.
D'accord.
Qu'il préférait l'oublier. Donc je suis là.
D'accord.
Ah! Donc en fait elle était en train de se faire elle avait l'air de elle cuisait de l'intérieur, elle était en train de littéralement rôtir. Elle a fini par mourir parce qu'ils l'ont plongée dans un bain d'eau glacée dans l'espoir de la refroidir. Donc plein de septons et plein de mastres ont essayé de la soigner mais ça donnait rien. Et pareil les blessures du dragon, ça donnait rien non plus. Et rappelons que c'est
déjà
le plus gros et le plus méchant dragon, donc
ouais,
qu'est-ce qui lui a fait mal, quoi.
Qu'est-ce qui est plus gros que Balerion de Black Dread et qui puisse lui faire mal, quoi.
Voilà, c'est déjà inquiétant. Et la gamine a fini par mourir quand on l'a plongée dans un bain d'eau glacée et sont sorties de son corps les créatures qu'il a rongées, qui ressemblaient à des serpents brûlants avec des visages et des mains. Et,
des visages humains.
Oui. Non, en vrai, il dit faces. Il dit pas human faces. Il dit juste faces.
Faces, ça sous-entend...
Je veux être intègre avec mes abonnés, tu vois, avec la commune.
Un animal
l'univers.
N'a pas, en anglais, un animal n'a pas de face.
Je sais, mais je précise que dans le texte, il y avait marqué human, il y a marqué face.
On dit a head of a snake, a head of a
c'est
dragon.
Vrai.
On dit pas face, c'est vraiment visage.
C'est vrai. Et ils avaient, par contre, il y avait marqué des mains, pas des pattes.
Ouais.
Des pinces, c'est des mains. Et du coup, ces créatures sont sorties d'elle et Balérion ne s'est jamais vraiment remis et a fini par mourir en bonne partie de ça. C'est aussi pour ça que Viserys l'a pas beaucoup chevauché. Et c'est devenu tellement... En fait, c'était tellement flippant ce qui lui arrivait à la gamine que le roi a décidé de faire brûler tous les travaux qui avaient été menés pour essayer de comprendre ce qui lui était arrivé, et notamment les travaux de Septon Barthes, qui a fait partie de ceux qui l'ont examiné. Je crois que c'est lui qui dit... Elle m'a chuchoté quelque chose que je préfère oublier à jamais. Et il a été accusé de, en essayant de comprendre ce qui lui est arrivé à cette gamine, de s'intéresser de trop près à des formes de magie trop noires. Mmh. Et du coup, Jaehaerys a ordonné que tous les textes à ce sujet soient détruits et on n'en a donc que des bribes partielles. C'était il n'y a pas si longtemps. Et la théorie, c'est que Balerion l'aurait emmené à Valyria, après le fléau, qui est un endroit d'où personne ne revient jamais vivant, et qu'elle y aurait survécu pendant on ne sait pas combien de temps. Et qu'elle aurait fini par être contaminée par des fireworms hybrides peu humanoïdes.
Un papa fireworms ou une maman fireworm qui aurait été assez grosse, parce que les fireworms sont décrits comme étant méga gros.
Oui, ils commencent de la taille d'un bras d'enfant à peu près, mais ils peuvent devenir énormes, genre des vers de dune, quoi.
Ouais, exactement. Il aurait heurté, il aurait fait cette balafre à Balérion,
mm-hmm.
et il aurait contaminé
Aerea. Comme un parasite, quoi.
Et comme un parasite, et c'est pour ça qu'elle aurait, et comme donc c'est une femme humaine, elle incube de ses bébés. Tout comme les xénomorphes, quoi.
Ouais, c'est vraiment alien, quoi.
Ils prennent un visage humain. C'est des espèces de vers humains qui sortent d'elles comme des xénomorphes, quoi.
Et tu ça, c'est typiquement un truc qui, dans le bouquin, ça fait genre 3 pages. Et après, on n'en reparle plus jamais. Et t'es là. Ouais, ok, je veux bien m'intéresser à Rhaenyra et à Lysenne, t'es fucking Otto Hightower, mais il se passe des trucs quand même vachement plus graves, là. Il se passe des dingueries. Le trône de fer, on s'en fout. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec Fire and Blood. On peut lire un peu. Ah bah du coup le bouquin il a servi là. Donc attends je vais passer un coup en dessous. C'est bon? Ok. Essaye de le trouver. Alors je sais pas du tout à quel niveau c'est. Je vais chercher en termes de temps. On va essayer de trouver.
Je vais pas réussir à lire. Tellement je vois rien.
Écoutez, je vous ferai une. Je demanderai l'autorisation. Tu vas le trouver?
Je vais le trouver.
Ok. Aerea. Aerea. Oui c'est ça. Targaryen. Et oui, donc ça fait partie des histoires les plus sombres et les plus mystérieuses de Fire and Blood. Et c'est ça que j'aime bien avec Fire and Blood et House of the Dragon, c'est que ça m'a réconcilié avec la magie dans l'univers de Game of Thrones, qui était vraiment pas ma passion, j'avoue. Moi, j'ai toujours préféré voir les naninana de Littlefinger et de Varys au bail de Bran et des Others et tout. Et j'étais là, en fait, La magie, il y en a limite trop peu pour que ça m'intéresse de ouf. Et je sais que ça va être une grosse échéance et que c'est le but de la chanson de la glace et du feu, mais ça me passionnait vraiment pas trop. Et tous les rêves de Daenerys, les trucs de Bran en Corneille à trois yeux et tout, j'étais là.
T'as capté que les rêves de Daenerys.
Bah maintenant, j'ai lu toutes les analyses des rêves de Daenerys avec les rois d'avant, là, au joyau et tout. Great Empire of the Dawn, once again. Et en fait, le fait que les Targaryens ils soient obsédés par la magie et qu'ils soient littéralement un peuple magique, eux, et que là, on les voit un peu au sommet de leur puissance et qu'ils parlent, qu'ils réfléchissent, enfin, qu'il y ait des personnages aussi importants que Daemon qui soient grave focalisés sur l'aspect magique de leur peuple, bah, ça m'a réconcilié un peu et voilà, je suis tombée dans les longues vidéos de théories et de lore très ésotérique qui me plaisent beaucoup.
À la fin de l'an 54, Aerea s'enfuit de Père Dragon sur le dos de Balerion. Il reste introuvable pendant des mois. En l'an 56, le dragon la ramène... Je lis le Wikipédia. Enfin, je lis... c'est la garde de nuit, d'ailleurs. En l'an 56, le dragon la ramène à Port-Réal. Au seuil de la mort, elle semble atteinte d'une étrange fièvre. Quelques heures après son arrivée, elle décède. Elle sera incinérée, selon la coutume des Targaryens, et ses cendres seront répandues dans le ciel par sa mère, Rhaena Targaryen, sur son dragon. Les causes de la mort d'Aerea demeure assez trouble. Si plusieurs personnes ont pu l'apercevoir lors de son retour à Port-Réal sur les dos de Balerion, seul Septon Barth et le grand maître Bennifer sont présents lors de sa mort. Barth ayant interdit au roi et à sa famille de voir Aerea pour les préserver d'un tel spectacle. La jeune fille paraît en effet cuire de l'intérieur. Dans son corps vivent plusieurs vers avec des mains et des visages. Non pas le terme visage.
Oui.
Que Barth identifie comme des créatures de feu venues de l'ancienne Valyria. Ces vers meurent en effet. Barth, le même qui a écrit
l'histoire non naturelle des Wyrms, des Wyverns et des dragons.
Il s'y connaît.
Et je crois que c'est ça qui l'a rendu obsédé par. C'est cet événement qui l'a rendu obsédé par le sujet.
Et le bouquin a été
interdit.
Interdit par Baelor le. Non.
Par Jaehaerys, je crois.
Par Baelor, je crois.
Peut-être par Baelor, c'est possible. Là-dessus, j'ai pas de 100%
Baelor, de certitude. Mais Baelor, il vient après Jaehaerys.
C'était son frère, non?
Peut-être.
Maybe.
Que Barth s'identifie comme des créatures de feu venues de l'ancienne Valyria. Ces vers meurent en effet une fois au contact avec de la glace.
Baelor le bienheureux, tout à fait. Merci The North Remembers. Ouais, l'histoire de Aerea, alors bon, on la verra pas dans House of the Dragon, c'était avant, mais ça fait partie du genre de mini-chapitre qui reste en tête de ma boule et qui ouvre tout un nouveau pan de lore, quoi.
Pourquoi t'écris 3 pages dessus si c'est pas important, en fait?
C'est ça. T'as déjà 1000 pages à écrire, t'es pas obligé de faire un aparté. Ah, et au fait, il y a eu ce truc hyper creepy qui est arrivé, on en a plus jamais reparlé, lol. Surtout que t'as des personnages aventuriers et tout, mais t'as personne qui va à Valyria parce que, genre, c'est la no-go zone, quoi. Tout le monde sait que Valyria, c'est nono, et du coup, j'ai très envie de savoir ce qu'il y a.
Donc, si la propriété des vers de feu, c'est d'être comme des xénomorphes, tu les fous dans une wyverne, ils chopent des ailes, tu fous le résultat dans un humain, ils se bindent avec l'humain.
Ça finit par faire des dragons qui ont un lien magique avec une certaine lignée humaine.
Et puis, ils arrêtent
spécifique.
Pas de parler de worms pour parler des dragons.
Oui. Comme celui de Daemon, notamment.
Ouais, exactement.
Qui est Longboy.
Et donc voilà, ils s'arrêtent pas de décrire les combats entre les dragons comme des combats de vers. Il y a vraiment.
Et dès que les dragons sont blessés aux ailes et tout, ils se tortillent par terre. Ils sont pas gracieux quand ils sont pas en vol. Enfin.
Ouais.
Il y a des signes quand on les cherche. S'il y a des signes forcément. Moi je crois à cette théorie. Je pense pas que House of the Dragon va aller aussi loin dans les explications, mais ils nous ont déjà donné du lore dragon qu'on n'avait pas, notamment les œufs que Daemon récupère. On n'avait jamais vu des œufs de dragon. À part ceux de Daenerys évidemment, l'entraînement des dragons par les experts valyriens et tout, on commence à en savoir un peu plus, d'infos est bonne à apprendre. Et le fait que les dragons désobéissent aussi parfois, on le savait dans le bouquin, mais là c'est très clair.
Donc Baelor, c'est le fils de Rhaenyra et c'est lui qui va faire brûler tous les manuscrits de Septon Barth.
D'accord.
Quelques extraits ont survécu, d'autres ont été brûlés à jamais.
Tout à fait.
Parce que Baelor était méga religieux, méga Seven Kingdoms, quoi.
L'étoile à cette branche.
Il est méga Seven Gods, là. Seven Léandal, là.
Les sept, quoi.
Ouais, les sept. Donc voilà. Méga chiant.
Oui.
C'est vrai. Et donc voilà.
Est-ce qu'on a fait le tour, Tequila?
Bah là, on a fait un beau tour, non?
On a fait un beau tour. On a même dépassé les frontières de House of the Dragon et de Westeros.
Un petit bonus 4.
On est parti à Assai. Vas-y.
Un petit bonus sketch. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans la dernière fois, mais on peut le redire. Pré Valérien, pré First Man, il y avait déjà la base de la Hightower.
Oui.
Qui était en
gros, la tour Hightower est construite sur un socle qui existe déjà et qui est déjà manufacturé, quoi. Qui a pas l'air, qui est pas naturel.
Il est en fused stone. Parce qu'il y a deux choses.
Il y a deux pierres noires différentes.
Ouais, longtemps confondu, oily blackstone et fused blackstone.
Non, qui peut t'en vouloir en même temps, vraiment. Faire un effort, Georges.
Mais en gros, la fused blackstone indique la présence de dragons.
Oui, c'est celle qui est fondue par les dragons et contrôlée par des sorciers.
Et c'est de cette stone-là qu'on parle quand on parle du socle de la Hightower. Donc ça veut dire peut-être une présence du Great Empire of the Dawn à Westeros. Avant ça, il y a aussi l'épée des Dane.
Oui, de Arthur Dane.
Qui s'appelle Dawn.
Oui.
Dawn, Great Empire of the Dawn.
Qui est plus vieille que tout et plus
Dane,
que tout.
Dawn, Dane, Dawn, Dane, Dawn, Dane, Dawn, Dawn.
Voilà, il y a des choses Dawn. quand on cherche, on trouve aussi.
Quand on cherche, on trouve, surtout quand c'est une putain de lettre rouge.
Oui.
Tu vois.
Tout est volontairement écrit par un seul gars.
Ouais, exactement.
Qui choisit tout ce qu'il met dedans.
C'est lui qui choisit. Donc c'est lui qui a choisi que ce soit un peu chelou.
Oui.
Donc c'est lui qui choisit de nous dire à demi-mot que les Dane et les Hightower sont pas forcément des First Men et sont peut-être, en tout cas, ou ont, bien sûr, on ken avec des First Men, mais ont peut-être des origines un petit peu plus anciennes que ça à aller chercher du côté du Great Empire of the Dawn.
Yes. En version courte, le Great Empire of the Dawn, c'est un ancien empire qui aurait couvert toute une région, une grande région à l'est d'Essos, dont peut-être la capitale aurait été Assai, et où il y avait, c'est là où il y avait l'empereur, le dieu qui marche parmi les hommes.
Exactement. Il y a eu toute une série d'empereurs.
Dont les règnes étaient de plus en plus courts, parce qu'ils ont commencé sur genre des règnes de 6000 ans. Et en gros, oui, ça a été la corruption des hommes, et c'est là où il y a eu fini par avoir.
En fait, chaque empereur a un nom de pierre précieuse.
Oui, l'empereur de jade, l'empereur de topaz. Pearl
Empire, jade machin, tourmaline, nanana.
Machin.
Jusqu'au jour où il y a une améthyste empress, je crois.
Oui.
Qui se fait poignarder par son frère.
Ouais. Qui est aussi un peu son mari, je crois.
The Bloodstone Emperor, qui
vénère une météorite, une
pierre noire tombée du ciel. Donc peut-être que cette pierre noire tombée du ciel, c'est aussi la Long Night qui arrive parce qu'il y a une météorite qui arrive sur la planète.
Oui.
Plein de choses à interpréter, c'est des écrits ancestraux.
Oui, hein. Et très ésotérique et très caché sous mille allégories et tout. Mais alors du coup, bah il y a des bonnes vidéos YouTube sur la question et des bons long reads sur Reddit en anglais. On avait mis les liens dans un précédent podcast, je vous les retrouverai, je vous les mettrai dans les notes de ce podcast-là, mais des chaînes YouTube que tu
recommandes. Ouais, bah c'est David Lightbringer.
David Lightbringer qui a fait toute une série sur le Great Empire of the Dawn.
Ouais, qui a fait 2-3 vidéos là-dessus qui sont assez longues et qui sont très complètes.
C'est issu notamment de The World of Ice and Fire et de 3 phrases dans une légende que Old Nan raconte à Bran dans un chapitre. Et en fait, quand tu connectes les points, tu fais oh, « mais ça veut grave dire qu'en fait,
et aussi le premier rêve de Dany, et aussi plein de trucs comme ça.
Plein de persos dans le coma ou quoi, qui font des rêves bizarres.
Ouais, tu dis « ah merde, mais ce serait pas eux les putains d'empereurs du Dawn, là ?»
C'est possible, là.
Et en fait, dans The World of Ice and Fire, c'est dans le chapitre sur Yeti, je crois, ou un truc comme ça, où ils te parlent de Yeti, qui est donc la Chine, en gros, et ils disent, les gens de Yeti se réclament d'un empire ancestral qui aurait complètement disparu et dont ils seraient les derniers descendants. Et cet empire, c'est le Great Empire of the Dawn. Mais le Great Empire of the Dawn, il englobe Yeti, mais il englobe les plaines des Jogosnai, les plaines des machins, les trucs jusqu'à Ashai, en passant par tout un pan énorme de Leng et tout ça, tout un pan énorme d'Essos, en fait.
Et ce qui est chelou, c'est que genre, si c'est un empire qui a été aussi vaste, pourquoi personne s'en souvient, quoi? Pourquoi là, il y a plein d'endroits qui sont désertés, voire maudits?
En fait,
pourquoi,
les gens sont, je pense qu'il y a des écrits encore sur
oui,
ce truc-là, mais qui sont à Haïti.
C'est ça, nous,
et qui sont méga loin.
Occidentale, quoi,
et qui sont dans une autre langue. Et que les maîtres de Westeros qui écrivent les bouquins qu'on est en train de lire, ils ne savent pas ce que c'est. Mais je pense comprends. Que ça peut être exploré. Les écrits n'ont pas forcément tous disparu.
Oui,
tu vois.
Ils sont peut-être juste ailleurs.
Voilà.
Pas à Westeros.
Et puis surtout, il y a des légendes qui sont restées comme Azor Ahai. Azor Ahai, voilà, c'est celui qui a mis fin à la longue nuit.
Et qui a forgé une épée en la plongeant dans le cœur de son amoureuse.
Ouais, exactement.
Donc il se passe des choses, quoi.
Et puis ce qui est marrant, c'est que Azor Ahai, il a plusieurs noms. Et quand tu regardes tous les noms différents de Azor Ahai, tu peux étymologiquement les rattacher à plusieurs.
Oui, genre le Azor Ahai de Yiti, il s'appelle Yentai ou un truc,
ouais,
comme ça.
Voilà,
enfin, ça commence pareil. Il y a des liens avec. C'est en gros, c'est la même légende qui a, mais comme dans la vraie vie, en fait, il y a huit peuples différents qui vont avoir la légende, je sais pas,
le Azor Ahai de
d'un être qui vient punir les enfants méchants, bah, c'est le père Fouettard, ouais, ici, il va avoir un autre nom ailleurs et tout. Et l'idée, c'est qu'il y a plein d'êtres qui sont, en fait, la légende de Azor Ahai dans plein de cultures de Westeros. Et du coup, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est un truc qui a vraiment existé, une façon de raconter de manière allégorique des événements qui sont peut-être liés à la création des dragons.
Exactement.
Et à même à une guerre ancestrale entre, ouais, des dieux qu'on ne voit plus sur Terre.
Exactement.
Ah, oh, Wesker, coucou! Merci beaucoup pour le sub.
Tu vois, il y a une ville qui s'appelle Hirkun, et un des alias de Azor Ahai, c'est Hirkun the Warrior, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, genre, tu peux retracer, exactement, et il y en
bientôt
a un.
On aura des punaises sur le mur, tu sais, avec des fils en mode, c'est évident! Regardez!
Et franchement, un de ses alias, il est très Westerosi, tu vois. Genre,
oui.
et
c'est Eldric, Eldric Stormfront, je sais pas quoi, là. Un nom un peu de mec de 14 ans sur un forum fantasy. Mais c'est
David
pas grave.
Lightbringer, il te fait 2 heures là-dessus, tu vois.
Et c'est un plaisir. C'est sur YouTube, David Lightbringer, si vous le regardez.
Très très fort.
Bon, on a bien discuté Tequila Tex.
Ouais, grave.
Merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant ces 10 épisodes. Quel kiff. On se reverra avec Tequila Tech sur cette chaîne. On sait pas encore quand, ce sera plus toutes les semaines, mais il reviendra, promis.
Bien sûr.
Et si vous voulez le voir et le voir déguisé en Viserys, c'est demain, du coup, le
mais si vous aimez
29
la
au Rex Club à Paris. Oui, il faut aimer
mais,
la techno.
Mais après, enfin, followez-moi sur les...
Follow Tequila Tex sur Instagram. Allez liker ces incroyables drips à base de Gilles Pêcheur.
Si vous voulez voir mon déguisement de Viserys de demain, bah, il faut aller
et
sur mon...
Croyez-moi, j'ai la chance d'avoir l'exclu, ok, je suis privilégié. Vous voulez le voir. Vous voulez vraiment le voir, il est incroyable.
Bon.
Est-ce que tu aimes The Crown?
J'ai pas regardé.
Ok. Bah, c'est super, The Crown, mais on en parlera sur cette chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous pour info dimanche soir. On va faire un livre dont vous êtes le héros avec Nodus sur cette chaîne. On va faire un slasher dont vous êtes le héros pour Halloween. Voilà. Mais je vous mettrai tout ça sur Instagram, comme d'habitude. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'on raid quelqu'un ou est-ce que ça y est, les gens, ils sont plus sur Twitch? Hop, hop. Attendez, je vous dis. Ah, on va raid AfroGamers, je pense. Est-ce que AfroGamers est en live? Je vais y arriver. Toujours une streameuse professionnelle. Oh, tout est trop compliqué. Oui, ok, AfroGameuse fait du JDR en plus. Bon, bah, très bien. On va aller les raids. Hop. Merci d'avoir été là. Merci d'être resté, y compris pour le point spoiler. Je sais qu'il y en a clairement qui n'avaient pas lu les livres et vous êtes finalement plus courageuse que moi car je l'aurais pas fait à votre place. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oui, super. Ok. Je vous envoie chez AfroGamers, un collectif de meufs qui mettent en avant les meufs racisées dans le milieu du streaming, entre autres, du gaming, entre autres, qui sont aussi tout simplement des personnes agréables et talentueuses. Allez suivre Tequila Tech sur Internet. Restez abonnés à ma chaîne et à ce podcast si vous nous écoutez en podcast. Des bisous. Bye bye.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou un petit mot gentil sur Spotify. C'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com/mymyhgl.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.